Voilà, c'est parti. Bienvenue sur cette troisième rencontre Radio Pléiade. Nous sommes le lundi 17 mai 2021. Et combien y a-t-il encore de petits bâtonnets à écrire sur le mur de sa cellule avant la sortie de prison? C'est la question que tout le monde se pose. Donc, ces soirées Radio Pléiade, en fait, il n'y a pas de thématique annoncée. On a des petites idées et puis ça se fait en fonction des participants. Donc, bienvenue à tout le monde. Vous êtes tous, en fait, des acteurs de Radio Pléiade, en tout cas, si vous le souhaitez. Donc, c'est le rendez-vous du lundi qui réveille le jeudi qui est en vous. Pardon, qui réveille le Jedi qui est en vous. Bon, je suis désolé, j'ai choisi mon slogan, mais c'est un slogan pour la télé, pas pour la radio. C'est dommage. Donc, c'est une radio, espèce de radio collaborative dont vous êtes le héros. Et en réalité, donc, cet enregistrement est transformé en une petite vidéo, comme certains ont pu le voir, donc pour qu'on puisse le voir sur YouTube ou l'écouter a posteriori. Mais on peut aussi, bien évidemment, écouter le replay sur le groupe Telegram Révolution Vibratoire et sur d'autres groupes. Voilà, à partir du moment où c'est partagé. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous sommes 25 participants. Merci à vous d'être là. Pour commencer, on va faire une petite présentation avec l'humeur du jour. Alors, moi, en fait, j'ai. Comment dire donc, effectivement, énergétiquement, il se passe pas mal de choses, mais j'ai fait une découverte hier qui m'a un petit peu déplu parce que je suis le collectif. Comment ça s'appelle sur le Covid, là, comment il s'appelle Brusa. Et j'ai vu la vidéo d'une dame qui parlait de Brusa en des termes assez étranges, où en fait, donc vous savez, c'est cet avocat qui fait des actions en justice enfin, par rapport au port du masque, par rapport à tous ces abus qui sont pris sur nos libertés à cause de cette pandémie de Covid-19. Eh bien, Brusa, il a apparemment, paraît-il, des drôles de comportements. Il utiliserait des codes de ponctuation maçonniques dans ses documents judiciaires et il n'aurait pas le mordant qu'on attend d'un avocat par rapport à toutes ses démarches, ce qui pourrait laisser supposer que c'est un gatekeeper, ce qu'on appelle un gatekeeper. Je reviendrai peut-être sur le sujet si ça vous intéresse. Mais du coup, alors, je ne dis pas que c'est avéré, que c'est une certitude, mais en tout cas, ça m'a un petit peu agacé parce que moi, je crois en certaines personnes. Et quand on voit des personnes qui tentent d'aider la lumière, comme ce monsieur Brusa, comme, enfin, je pense au Covid-19, là, en ce moment, à Martine Vonner ou Fouché, Louis Fouché, ben, c'est vrai qu'on a envie de croire en eux. Et quand on découvre des choses un peu bizarres derrière, ben, on se dit que, mon Dieu, peut-être que l'ombre est partout et qu'elle a prévu des plans B dans tous les recoins de notre indignation. Voilà, c'était mon humeur du jour un peu longue. À vous la parole. Ouais, Eric,
Allez,
alors?
allez. Oui, ben, ça me paraît un bon sujet. C'est vrai que cette dame parle un petit peu curieusement. Ça sent le gatekeeperisme, qui est très à la mode aujourd'hui, hein. C'est pas la seule à avoir ce genre d'attitude. Mais ça vaut le coup d'être décrypté, en effet. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu cette vidéo quelqu'un à la radio ce soir a vu cette vidéo, entendu parler de cette vidéo?
On pourra en reparler, mais quelle est ton humeur du jour, Eric?
Très bien, il fait beau, tout va bien.
Ah, toi, tu as du beau temps, bah, tu as de la chance.
Et oui, on ne peut pas avoir l'air salé de la mer et puis le soleil en même temps.
Ok. Cindy?
Oui, bah, bonjour, moi c'est Cindy. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je représente le réseau au niveau francophone Prepare for Change et j'ai un lien avec la civilisation ancienne d'Hyperborée. Et aujourd'hui, depuis quelques temps d'ailleurs, l'Hyperborée est un petit peu désaxée. Hein, beaucoup d'énergie à encaisser, surtout un fort lien de connexion d'âme que j'ai du mal à gérer. Mais on va faire ce qu'on va pouvoir. Voilà.
Ah, tu en as déjà dit trop. Tu en as déjà
Oui,
dit
je sais,
trop.
mais là, c'est un peu tôt pour en parler, mais là.
Nadia, est-ce que tu veux dire deux mots?
Oui, bonjour. Oui, deux mots vite fait. Je me présente vite fait. Je suis équilibro-sophrologue et prof de danse, mais avant tout, médium. Pour rebondir vite fait à ce que disait Dédé, Ayant connu pas mal de gens dans ma famille des francs-maçons, il y a quand même des francs-maçons qui sont très bien. Hein, c'est comme partout, et ils sont pas tous pourris. Je suis pas du tout là-dedans, et dans ma famille ils n'y sont plus. Mais ceci dit, c'est possible que Maître Brusat le soit, mais peut-être avant de lui jeter la pierre, gardons raison. Voilà. Et okay. Pour ce qui est de mon humeur du jour, moi aussi je suis très sollicitée en ce moment et j'ai eu des messages sur mes origines et puis les origines des gens de mon entourage qui seraient, c'était complètement délirant, hybride extraterrestre, mélangé avec des reptiles originaires de la Terre et plus tard les hominidés. Enfin bon, mais je commence à peine donc c'est très bizarre. Voilà.
Bah, tu vas nous raconter ça. Est-ce que d'autres personnes, là, parmi les 27 participants, souhaiteraient échanger son humeur du jour? Allez-y, prenez la parole, ne soyez pas timide. Nathalie, peut-être? Jean-Michel?
Bonsoir à tous. Mon humeur du jour, c'est une grande, enfin beaucoup d'énergie, très secouée. Et j'ai quitté mon île pour aller sur la presqu'île, appelée en fait à une grande guérison familiale. On n'a pas pu y échapper, quoi. Ça a été un bel appel. Et donc de retour sur le caillou, c'est du repos, mais beaucoup de paix, mais très secoué également. Voilà.
Donc ce que tu appelles le caillou, c'est, on peut le dire?
Ah, le caillou, c'est Belle-Île-en-Mer. Mon île, ouais, j'habite. Le caillou, le joyau plutôt, mais tout le monde l'appelle le caillou, mais c'est vraiment un joyau. Et la traversée, j'ai été un petit peu secouée, mais vraiment heureuse de rentrer. Et puis il y a eu dans la nuit en fait comme un flashback de tout ce qui s'est passé sur mon appel à Quiberon, et ça a été vraiment très puissant, quoi. Donc là, j'ai chaud rien que d'en parler, hein. Mais secouée, et puis aérée aussi, assez heureuse en fait que les choses s'accélèrent. Et il faut tenir bon la marée et bon la barre, quoi. Voilà, c'était mon humeur.
Super, merci. Romain, peut-être, hein. Je sais que tu as plein de choses très intéressantes à nous raconter.
Oui, bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Bah, moi, mon humeur du jour. Moi aussi pas mal secoué, bon j'ai pas mal de soucis en ce moment avec des rendus universitaires, mais je dirais que je ressens tout en même temps, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps un peu encore des attaques.
Reste bien près du micro.
Qui viennent un peu, pardon, oui, des entités qui viennent un peu troubler comme d'habitude, et aussi de plus en plus une excitation un peu au niveau de l'âme, parce que peut-être que je sens au fur et à mesure qu'on gagne et que aussi l'événement se rapproche, même si on ne sait pas encore combien de temps ça va prendre, mais voilà, je sens quand même depuis 3 semaines, on a franchi un nouveau cap au niveau énergétique et ça se sent. Moi, en tout cas, je le ressens dans ma vie, dans la manière dont je vois les autres et le monde. Voilà, il se passe des choses. Bon, on avance toujours de manière contrastée parce que la cabale a toujours des plans pour faire foirer, pour retarder, etc. Mais on avance. Donc voilà, secoué, mais en même temps excité aussi parce que énergétiquement, il se passe des choses. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà.
Tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure, peut-être?
Ok, ouais, ça marche.
Ouais, non, Romain, c'est une personne très lumineuse qui a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, et c'est super intéressant de l'écouter. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait partager son humeur du jour? Loïc? Peut-être? All One Union. Non?
Si, si, on est là. Tout va bien?
Ok. Bon, bienvenue Loïc. Loïc, donc, qui veut créer une, pour ceux qui n'ont pas assisté au numéro 1 de Radio Pléiade, qui veut créer une journée internationale des travailleurs de lumière. Donc voilà. Bon, bah écoutez, si personne d'autre veut monter sur l'estrade pour échanger son ressenti. On peut démarrer. Bah, à ce moment-là, ce que je te propose, Nadia, puisque tu vas devoir faire à manger à ton cher et tendre, peut-être parle-nous un petit peu de tes ressentis énergétiques actuels, puisque tu as, pareil, tu as beaucoup de ressentis et beaucoup de choses à partager.
Oui. Alors, c'est vrai que ça bouge énormément en ce moment. En ce qui me concerne, même mon mari qui est absolument pas là-dedans, mais pas réfractaire, mais il est prof de maths, physique, chimie, donc voilà. Même lui, il a l'impression d'être reprogrammé pendant la nuit. Ça, déjà, c'est énorme. Mais ce dont je peux parler, mais c'est uniquement personnel, mais j'ai envie d'en parler parce que j'ai l'impression que je ne suis pas la seule et que peut-être, comme moi, il y en a qui ont peur d'en parler. Voilà, ça fait des années que je canalise, que je reçois des choses, et puis tout et n'importe quoi, sans en avoir peur. Et c'était bizarre parce que, au début, je me disais que c'était parce que j'ai vécu dedans toute mon enfance, toute ma jeunesse, etc. Mais bref, je passe les détails. En passant par un animal totem qui était le cobra rouge et qui s'est transformé en vouivre, qui en fait est un, pour ceux qui connaissent moins, une sorte de femme serpent ailée. bref, et un contact avec un dragon. Donc, ça fait quelques années que je tourne autour de tout ça et que depuis peu, mes guides m'ont expliqué clairement qu'en fait, je fais partie des hybrides reptiliens. Et c'est un peu la raison pour laquelle les gens comme moi, enfin, on est quand même pas mal, on peut aborder l'ombre facilement, plus facilement. Un peu comme si j'avais toujours connu, j'étais partie de l'ombre la plus noire pour en arriver à ce que je suis maintenant, sans dire que je suis complètement lumineuse, mais je pense que, comme beaucoup, j'ai fait un certain chemin. Et en ce moment, c'est comme si les gens qui seraient reptiliens, ou en tout cas hybridés reptiliens, doivent le savoir, ou en tout cas en avoir conscience pour définitivement pardonner cette dimension qui a été nécessaire.
Alors, excuse-moi de t'interrompre, Nadia, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un hybride reptilien ?
Alors voilà, ce qu'on m'a dit donc très dernièrement, c'est que à la base, sur Terre, la Terre était peuplée de reptiles qui, en évoluant, sont devenus, on va dire, humanoïdes, c'est-à-dire de plus en plus intelligents. Et que les premiers habitants de la Terre étaient reptiles. Et c'est les reptiliens dont on parle souvent, on fait un amalgame, et il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des extraterrestres. Et en fait, il semblerait, maintenant je n'ai pas de preuves, hein, mais de ce qu'on vient de me dire et puis de tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, il semblerait que ce soit les premiers habitants et que certaines races extraterrestres, mais pas du tout méchantes, hein, se seraient hybridées génétiquement avec ces reptiliens. Et en ce qui me concerne, ce seraient les Syriens de Sirius A. Alors, j'ai aucune idée. Hein. Je commence à chercher à quoi. Enfin, si, j'ai aucune. C'est pas vrai, j'ai pas aucune idée, puisque il ressemble beaucoup, maintenant que je me suis renseignée, à ceux qui sont venus me voir en 2011.
Mais attends, Nadia, moi je t'ai vu en vidéo, on a branché nos caméras, t'as pas une peau de reptile, t'as pas des écailles, t'es pas verte. Eh ben non, comment tu peux dire que tu es hybride reptilienne ?
Alors, depuis pratiquement une semaine seulement, c'est tout récent qu'on m'a expliqué ça. Étant donné que j'avais fait la paix avec cette fameuse vouivre totem, parce que j'ai mis du temps à accepter le fait que j'avais un animal totem reptilien, mais bon, quand j'ai commencé à aller me renseigner sur ça, je suis tombée sur plusieurs sites, dont un qui expliquait que il y a plusieurs façons de comprendre si on a vraiment des, on a été vraiment hybridé reptilien. C'est des façons de faire, c'est-à-dire un calme, un sang-froid assez facile à obtenir, etc. Et qui et des caractéristiques qui me parlent énormément, hein, qui retracent vraiment, vraiment ce que je suis, puis d'autres personnes que je connais. Et ça n'a rien à voir avec l'aspect, évidemment, parce que depuis l'hybridation, etc., ben c'est, on a évolué. Enfin, ça a évolué, non, mais je suppose.
Permets-moi d'intervenir, Nadia. Ouais. En fait, je pense que pour une grande majorité d'entre nous, on a ce qu'on appelle un implant reptilien, donc qui est placé dans le cortex reptilien, justement, qui nous relie d'une certaine façon à ces êtres qui sont des contrôleurs de la matrice un petit peu. Enfin, moi, c'est mon expérience personnelle. Est-ce que justement, cette similitude de cette proximité, cette similitude de comportement, c'est pas quelque chose que tu pourrais sentir à travers un implant, l'implant reptilien?
Alors, justement, c'est ce que j'ai demandé. Parce que j'ai parlé de des implants, etc. Et ils m'ont expliqué que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus ramifié encore que ce qu'on pense. Alors, c'est vrai que les implants existent et c'est vrai que tout ça, c'est pas du tout ce qu'ils... Ils n'ont pas du tout réfuté ça, mais ils m'ont expliqué que... Il y a plusieurs niveaux d'hybridation. Et les fameux deux brins d'ADN, il y a aussi des personnages qui auraient un peu plus de brins d'ADN connectés que seulement les deux humains, mais sans le savoir. Hein. Et ce qui fait qu'ils ont une sensation, une perception de la réalité beaucoup plus fine et, que la normalité, on va dire, des humains. Mais ce n'est pas forcément dû à un implant, parce que, comme tu le sais, à chaque fois que je me connecte, depuis le début, hein, j'ai toujours fait en sorte, et c'est la raison pour laquelle j'ai été sauvée après mon accident. Enfin, j'ai eu la permission de revenir, puisque j'étais partie de l'autre côté, hein, parce que je me suis toujours tournée vers la lumière, et parce qu'à chaque fois que je me connecte, à chaque fois que quoi que je fasse, j'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaye d'être cohérente avec ce en quoi je crois et de toujours agir comme si j'étais téléguidée par la lumière. J'essaye absolument, allez, la majeure partie du temps de me mettre en état de, un peu comme on préconise la loi d'attraction. Oui, la fameuse loi d'attraction, c'est-à-dire de me mettre constamment en état de. En état de lumière, c'est-à-dire en état de vérité, je ne mens jamais. Et s'il y a vraiment une vérité qui ne doit pas être reçue, je la tais, mais je ne la mens pas. Il y a plein de choses comme ça que je m'efforce de faire, qui me permettent d'affirmer hein, que je ne suis pas dirigée par l'ombre, d'une part, et d'autre part, parce que en face de l'ombre, je dérange beaucoup. Voilà.
D'accord. Alors moi, j'invite. Pardon, oui, justement, j'allais inviter les auditeurs, enfin, ou les co-admins à intervenir, à poser vos questions, puisque là, on a un cas d'école, on va dire, un peu intéressant. Pardonne-moi, Nadia, de parler de cas d'école. Mais justement, je pense que c'est le moment de poser des questions pour essayer de comprendre ce que tu entends par là. Parce que, alors après, moi, la question que j'aurais envie de poser, c'est comment peux-tu avoir la certitude, justement, que ces informations te proviennent d'une source fiable, sachant que, alors si on se réfère à la dernière mise à jour du contact Ecobra, il disait qu'on avait encore une centaine d'entités démoniaques qui nous tournaient autour et que le nettoyage dans les plans subtils était loin d'être fait. Donc, on peut être soumis encore à des influences, à des messages télépathiques, à tout un tas de trucs qui peuvent nous faire penser que. Et on sait bien que dans ce domaine-là, il est très difficile d'avoir des certitudes puisqu'on ne sait pas identifier celui qui nous parle. Et c'est tout le problème des canalisations.
Je suis tout à fait d'accord, mais ceci dit, pour avoir eu toutes sortes de canalisations, en général, ceux qui ne sont pas tout à fait dignes d'être entendus, en ce qui me concerne, ne se présentent pas. Ils parlent directement. Quand la lumière parle, elle se présente toujours. Et on a une sensation complètement différente. Une sensation agréable.
Donc, et ça se manifeste par quoi, cette lumière ? Il y a une reconnaissance particulière, une sensation, un élément de référence éventuellement, je ne sais pas, je suis curieux.
Ça commence toujours par une sorte de bien-être, comme des vibrations, des vibrations cellulaires très agréables qui parcourent tout le corps. Et puis une sensation de légèreté, de gratitude, de légèreté. J'ai déjà canalisé des gens qui n'étaient pas forcément complètement dans l'ombre, hein, mais qui étaient juste des désincarnés perdus. Et c'est lourd, même s'ils sont que désincarnés et qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, c'est très lourd à supporter physiquement. Tandis que quand c'est de la lumière, c'est très léger, c'est très agréable.
D'accord, mais comment on peut savoir qui est à l'autre bout du fil, hein? Moi, je me souviens, gamin, on faisait des blagues au téléphone. on était jeunes et cons. Bon, maintenant, on est un peu plus vieux et peut-être cons aussi, mais en attendant, c'est très facile, juste au téléphone, hein, je parle juste du téléphone. Avec un peu de psychologie, on peut amener les gens à faire dire des choses et à voir des choses. Donc, c'est très scientifique, hein. Il y a toujours un référent.
Mais je suis d'accord. Moi, je suis la première à toujours chercher une explication rationnelle, vraiment. Hein. Mais je suis née dedans. J'avais une grand-mère voyante, médium, etc. Une autre grand-mère magnétiseuse. Je suis née dedans. Donc déjà, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience de pratique. Et pour savoir qui me parle, en fait, maintenant, je reconnais non seulement l'intonation, mais aussi la façon de parler, même s'il y en a qui arrivent, hein, il y en a qui essayent de se déguiser. Et il arrive toujours un moment où je sais que c'est pas l'entité qui s'est annoncée, si jamais elle s'est annoncée. Donc, c'est la pratique, en fait, c'est l'expérience. Maintenant, attention, hein, je ne dis pas que je suis infaillible, pas du tout, du tout. Il est fort probable que je me sois trompée plein de fois. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces jours-ci, là, c'était très puissant et très bénéfique.
Donc, tu communiques avec des entités que tu penses être reptiliennes et qui te parlent d'un lien de famille quelque part entre eux et toi, c'est ça ?
Pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, je communique depuis pas mal de temps, avec les fameux Syriens qui, comme les Lyriens, comme les Pléiadiens, etc., qui auraient à l'époque, qui seraient venus sur la Terre pour mélanger leur ADN avec les reptiliens en premier lieu, et puis ensuite avec les hominidés, les singes dans un second temps. Mais sont des... Non, ceux avec qui je communique, ce sont plutôt des entités d'une autre dimension.
D'accord. Alors, les Syriens, donc, est-ce qu'on trouve des traces dans l'histoire de l'humanité de l'intervention de ces Syriens? On trouve plein de traces, hein, dans les vieux temples, dans les vieux écrits. Donc, est-ce que toi, tu as trouvé des choses dans des vieux écrits ou dans des sculptures qui laisseraient supposer...
Disons que la première fois, ils sont apparus chez moi, devant chez moi. Ils étaient trois, grands, blancs-bleus. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais ayant l'habitude de ces choses-là, je n'ai pas eu très peur. Bon, bref. Je raccourcis. Et puis, et c'est comme ça qu'il y a eu le premier contact. Ensuite, j'ai eu des contacts. Moi, je suis très audio. Je suis auditive. J'ai pas le mot. Plus audio-réceptive que voyante. Oui, voilà. Et ensuite, ils m'ont envoyé tout un tas de messages qu'ils m'ont demandé d'écrire dans un blog, et donc pendant pas mal de temps, qui étaient des conseils très, ma foi, très, on va dire, lumineux, en tout cas logique, presque dans la vie. Et par contre, les seuls reptiliens entre guillemets avec lesquels je communique, c'est un dragon qui est venu il y a à peu près 5 ans, et une entité qui ressemble à un dragon, et la vouivre dont je parle, qui est quand même très très reptilienne. Et ces deux-là travaillent de concert, un peu comme quand ils sont ensemble, ils travaillent vraiment comme le yin-yang, hein, ils travaillent ensemble. Il y en a une, donc la reptilienne, donc la vouivre, me connecte avec la matérialité, et l'autre me connecte avec le spirituel, et les deux sont vraiment nécessaires pour être complets, en fait, de ce qu'ils me disent, hein, de ce qu'ils dans leur enseignement, voilà. Mais j'ai mis du temps à l'accepter, je ne voulais pas du tout de cette vouivre, parce qu'elle elle incarne l'ombre à tout point de vue. Elle a des dents acérées qui n'ont pas besoin de mordre pour tuer. Elle a un regard qui tue. Elle a une carapace, presque comme les langoustes. Elle a des ailes. Elle a des pattes avec trois doigts qui lui permettent de monter aux parois, même verticales. Enfin, elle a tout pour servir l'ombre. Et alors que le dragon est complètement lumineux, mais ils m'ont fait comprendre que l'un ne pouvait pas agir sans l'autre. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter ça. Mais maintenant, il a fallu que je l'accepte il y a 3 ans. Et maintenant, par rapport à ce qu'on vit actuellement, ça fait sens parce que ce côté que j'ai accepté d'intégrer, entre guillemets, mais que j'ai accepté de l'ombre, me permet de ne pas tomber dans la haine de ce qui se passe actuellement, dans la haine de ceux qui nous font tant de misère, et de ne justement pas tomber dans leur piège.
Alors ça c'est intéressant, voilà, ça c'est un élément vraiment intéressant. Alors on en parlait, je crois que c'était dans le live de la semaine, enfin la radio de la semaine passée, où justement on disait, on faisait une allusion au film V, tous les reptiliens n'étaient pas négatifs. Effectivement, il y en a qui sont positifs, il y en a qui travaillent pour la lumière, c'est pas la majorité, mais il y en a certains. Mais bon, moi, je voudrais quelque part, enfin, opposer. Je suis pas médium comme tu l'es. Je suis pas magnétiseur. J'ai pas d'antécédent particulier, quoique. Mais rien de très très marqué. Mais moi, je voudrais opposer mon expérience à la tienne à travers une petite anecdote. C'est que en fait, quand j'ai des tentatives de connexion qui sont très manifestement des connexions lumineuses, comme une reconnexion à une personne de famille, d'âme, un galactique positif. Ce qui se passe, alors soit ça se fait de façon dérobée et fugace, parce que justement, en général, il y a toujours un danger, étant donné le nombre de gardiens qui peut y encore tourner autour de nous, soit la communication est purement et simplement coupée. Et ça, je l'ai connu très nettement, parce que justement, la matrice ne souhaite pas. Ça, c'est mon expérience. La matrice ne souhaite pas que nous nous reconnections à des entités véritablement positives, et notamment des entités au-delà du voile. Donc après, voilà, ça, c'est mon expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à accepter, mais je te remercie beaucoup de te mettre à nu et de donner ce témoignage, mais j'ai du mal à accepter que la matrice laisse faire des contacts qui sont éminemment positifs. C'est pas du tout congruent avec mon expérience.
Oui, mais non, je suis complètement d'accord avec toi, parce que avant, un peu comme toi peut-être, et au même moment, je recevais un peu comme une communication téléphonique, un peu comme si ça venait d'ailleurs, et je recevais très bien et tout. Et puis il y a eu une grosse coupure, pareil, je sais pas si c'était en même temps que toi ou pas, mais j'ai eu une grosse coupure pendant au moins 3 ans, depuis 2015 jusqu'à 2019, donc ça fait 4 ans. J'ai une grosse coupure, pareil, j'avais vraiment plus d'accès. Par contre, quand j'ai réintégré cette part d'ombre dont j'ai eu besoin en fait personnellement, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait plus chercher la communication à l'extérieur, mais il fallait communiquer à l'intérieur de ces cellules, puisqu'on contient tous dans nos cellules la part divine, hein, notre source. Et c'est en fait, par ce biais-là, je ne communique plus, on va dire, vers l'extérieur, mais je m'intériorise et c'est un peu comme si je me connectais au soleil de chacune de mes cellules. Pour moi, le noyau, c'est le soleil, comme le soleil de notre système solaire ou le soleil de la galaxie. Et ben, en fait, je me connecte à l'intérieur de mes cellules et apparemment, la matrice n'a pas accès à nos corps parce qu'il y a notre âme qui... Enfin, notre âme, et je ne sais pas exactement comment ça marche, mais qui n'est pas accessible à eux. Il y a une partie qui n'est pas accessible. Voilà.
Soucha, tu veux bien préciser te connecter à l'intérieur de tes cellules, s'il te plaît? Parce qu'en fait, je me sens très concernée par tout ce que tu racontes.
Ah, génial. Alors, étant donné que je suis prof de danse et danseuse aussi, c'est vrai que j'ai pas trop de problèmes pour me connecter à l'intérieur de mon corps, pour écouter n'importe quelle partie de mon corps. Et donc, me connecter à mes cellules, c'est pour l'expliquer, en fait, ce serait facile de dire, enfin, c'est ce que je fais avec mes élèves, d'abord, se connecter à son corps, c'est assez facile, juste en commençant par la peau. On sent si on a chaud, si on a froid, si on a un tissu dessus, si on est assis sur la chaise, la peau est écrasée, etc. Ça, on peut déjà sentir l'extérieur. Ensuite, on sent juste un tout petit peu en dessous de la peau, l'épiderme. On sent, si on passe juste au-dessus de son bras, les poils peuvent se hérisser, ou si on a des sentiments, etc. Et en descendant comme ça de plus en plus, on arrive à se connecter à son corps.
Oui, alors moi, je suis d'accord un peu avec les trois derniers intervenants. C'est vrai qu'on peut se connecter avec ses cellules, on fait ça dans les arts martiaux. Il y a plein de techniques qui permettent vraiment de se connecter au soleil central des cellules. Après, c'est vrai que dans une matrice, on est dans un bocal, et si on ne sort pas du bocal, on communique peut-être avec son soleil cellulaire, si on peut appeler ça comme ça, mais on reste dans le bocal, quoi. C'est, si on casse pas la vitre ou si on n'arrive pas à sortir du bocal, on est quand même dans un jus avec de toutes sortes d'informations, dont certaines volontairement fausses pour égarer les gens. Alors ça, aujourd'hui, c'est légion, et le terme de légion est bien appliqué, hein. Donc moi, je trouve que c'est très, très difficile de sortir de cette matrice. Je n'en suis pas capable, je prétends pas du tout être capable d'en sortir. Mais elle est pleine de pièges, hein. Et nos propres reflets sont aussi nos propres pièges. Souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Je suis d'accord. Ceci dit, moi, je garde espoir parce que, étant donné que nous sommes tous des étincelles de la source, étant donné que la source est bien plus forte que la matrice et toutes les choses qui peuvent nous paraître infranchissables. Il suffit de garder c'est même plus de la foi, c'est cette certitude qu'on est tous des gouttes de la source et la source ne craint rien. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça.
Je suis d'accord.
Justement, je refuse la peur pour ça.
C'est très bien, faut pas avoir peur, c'est vrai. Mais on voit bien qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent dans la vase et puis ça représente un peu cette planète actuellement. Nous, on est dans la vase, dans un bocal. Et en effet, je pense qu'il faut garder une foi dans la source. Mais là, on est quand même très coupé de tout ça, volontairement, hein, depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Oui. Alors là, on en sort, hein, on va vers quelque chose de positif. Ça, c'est indéniable. C'est acté sur d'autres plans.
Heureusement. Ce que j'ai eu aussi pour aller dans ton sens, ce que j'ai eu aussi comme message, quand je me sentais seule, que je les entendais plus, je disais, mais pourquoi vous m'avez laissé tomber? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et on m'a expliqué, mais avant, on faisait les choses à travers toi. Maintenant, il est temps que tu les fasses toi-même, parce que tu contiens, comme tout le monde, tu contiens Dieu. Et là, ça a été difficile parce que c'est comme si on passait l'école de l'école maternelle à, au CP et que là, il fallait que ce soit nous qui écrivions nous-mêmes et qui, et qui parlions nous-mêmes. Mais en fait, la matrice, c'est nous qui la cassons et personne d'autre.
Non, là-dessus, je ne suis pas trop d'accord. Il y a des aides qui la cassent. C'est hors nos moyens actuellement. Là. On est... Le niveau de programmation est tel que c'est impossible de casser la matrice tout seul. On peut en avoir peut-être l'illusion. Par contre, c'est vrai qu'on peut ramener de la lumière par de la positivité, en agissant au quotidien, en étant super positif.
Oui, mais en fait, tu sais bien qu'on a plusieurs corps. Je ne parle pas de notre corps physique, ni de notre corps éthérique, ni de notre corps astral. On a des corps qu'on partage ensemble. Et c'est de ça que je parle. Le tout seul en question, c'est ce corps unifié dont je parle.
Oui, ce que je trouve très intéressant dans ta proposition par rapport aux cellules, ça me parle tout à fait. Et effectivement, on est dans une matrix et dans un bocal, sauf que dans cette matrix et dans ce bocal, on a aussi des moyens de connecter avec des univers parallèles. Et notamment, dans les cellules, il y a des trous noirs. Le centre de notre cellule est un trou noir. Et le trou noir, on le sait bien, sont justement ces portes sur les univers parallèles. Donc aussi un moyen de trouver un chemin différent que d'aller vers l'extérieur où il y a le bocal, eh bien, et effectivement aller au fond de soi où il y a ce trou noir et passer par là.
Oh, c'est génial, j'avais pas pensé à ça, mais c'est génial, c'est génial. Merci.
Merci à toi.
Moi, j'ai fini.
Est-ce que super, merci beaucoup d'avoir partagé. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait justement commenter ou partager une expérience comparable à celle de Nadia, peut-être ?
Moi, je suis assez d'accord. Bonsoir.
Bonsoir Sonia.
Bonsoir. Je fonctionne pareil, mais je me connecte pas à mes cellules, mais plutôt à mon moi divin, à mon moi supérieur, mais à l'intérieur de mon chakra cœur. Je reste vraiment à l'intérieur de moi dans mes connexions. J'ai une période de l'habitude de me connecter au-delà de moi, au-dessus de moi, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, par moments, je me faisais leurrer parce que les messages que je recevais me semblaient cohérents, mais sans cohérence. Enfin, il y avait des choses, il y a ce petit truc, on se dit, c'est pas logique, ou c'est pas clair, ou je le vibre pas comme ça. Il y avait ce truc qui semblait beau, mais qui, dans sa profondeur, l'était beaucoup moins. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas clair ce truc, quoi. Pourquoi je vais aller chercher à l'extérieur, alors que si je vais chercher à l'intérieur de moi, là, je ne serais pas parasitée. Alors, bien sûr, ça nécessite… moi, je me nettoie beaucoup, je m'épure beaucoup, je libère. Enfin, voilà. J'essaie de me maintenir, mon intérieur, mon joyau, ma divinité, on va dire, au mieux que je puisse. Et c'est vrai que tous les questionnements ou toutes les connexions, toutes les communications et les canalisations que je fais, je passe toujours par mon cœur, par mon chakra cœur, par mon centre. Et c'est vraiment je perçois vraiment cette comme ce tube de lumière, enfin ça ressemble pas à un tube hein, mais c'est comme ce tube de lumière qui est en moi, qui est moi, mais ce moi tout en étant cet autre moi et qui a un accès direct à tout. En me connectant au centre, j'ai l'accès à plusieurs choses je fais pas mes courses et je fais pas le choix de ce que je vais voir hein. J'ai pas accès à tout le temps, mais j'ai pas ce sentiment d'être justement parasité quand je suis en connexion avec mon moi profond, quand je vais à l'intérieur de moi.
C'est toujours le principe du bocal. On regarde dans le bocal et qu'est-ce qu'on voit ? Le reflet de soi-même. Le bocal, c'est un bon exemple. Donc, c'est un bocal de piège, en fin de compte. Et après, bon, le moyen de contrôle, c'est le fruit. Ça, chacun peut dire, j'ai pu évoluer grâce à ça, j'ai pu aider les autres concrètement et de manière durable grâce à ça, j'ai pu aider l'humanité en faisant certains types de canalisation. et c'est resté durablement, ça c'est du fruit, c'est du concret. Après, les informations, c'est très complexe, c'est un peu comme les radios libres. Chacun a sa propre radio libre, mais on ne connaît pas la source de la radio et elle n'est jamais confrontée à plusieurs. Il n'y a jamais personne, enfin, je n'ai pas connu de personne qui faisait des canalisations ensemble et qui trouvait les mêmes résultats. Par contre, sur beaucoup de canalisations, c'est toujours les mêmes textes qui reviennent, un peu comme si c'était des programmes, tout simplement. Des programmes qui sont là, qui attendent qu'il y ait des bonnes âmes, qui ont envie de donner de l'amour aux gens, qui se connectent et qui redonnent ces informations. Moi, je regarde les canalisations sur les Pléiadiens, les choses comme ça, à part que je pense qu'ils ont autre chose à foutre actuellement, les Pléiadiens, que de donner des informations qui sont parfois déroutantes, du genre « nous sommes au mort, nous sommes là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Ça se passe pas bien en ce moment et ça empêche les gens d'agir souvent. Alors qu'on peut agir. D'accord, vas-y, développe, je t'écoute.
Bon. Je suis pas d'accord dans le sens où, en fait, comme nous tous, on a tous un rôle sur cette terre. Il y a ceux qui vont. Alors encore une fois, ça n'est que mon opinion, évidemment. Hein. Mais il y a ceux sur cette terre qui vont être, les lanceurs d'alerte. Il va y avoir ceux que moi je vais appeler les guerriers, ceux qui sont sur le terrain à faire des manifs, etc., etc., etc. Il y a ceux qui vont être, on va dire, à côté, en train de méditer, nettoyer, transmuter certaines énergies, etc. Pour moi, il y a les médecins, il y a tous ceux qui sont… Voilà, bon. Il y a tous ces gens, tous ces humains, nous sommes tous, on va dire, nous avons tous un rôle à jouer. Pour moi, les Pléiadiens, ils ont effectivement ils bûchent comme des fous parce qu'ils sont à fond dans le truc, mais ça n'empêche qu'il peut quand même y avoir ceux qui ont le rôle de nous dire ouais, vous inquiétez pas, tout va bien, on est là, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que mine de rien, on passe une période qui est juste, mais voilà, enfin, c'est le bouleversement absolu pour tout le monde. Et que, mais heureusement qu'il y en a encore qui sont là pour dire hey, t'inquiète, tout va bien se passer, on est là, t'inquiète pas. Donc, pour moi, si on reçoit des messages, ça ne me surprend pas. Bien sûr qu'ils ont des tonnes de travail, mais il y en a quand même qui sont là pour la bienveillance et pour rassurer et pour dire « ça va aller, on est là ».
Part toujours le même problème, comment valider la source du message, hein. C'est ce que je racontais tout à l'heure, les blagues au téléphone. Peu de gens peuvent les valider. À part, les personnes évidemment qui les vivent, qui les reçoivent, vont dire bah oui, ça me parle, c'est en harmonie avec moi, mais c'est en harmonie avec une personne. C'est pas comme si c'était un concert, là, c'est vraiment un solo. Alors quand il y a plein de personnes qui reçoivent le même message, on peut dire ah, là, en effet, il y a peut-être quelque chose.
Mais j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu reçois un message et qu'il est bienveillant et qu'il te fait du bien, pourquoi il serait faux ?
Je dirais qu'il est vrai pour toi. Mais
oui, alors pourquoi il ne serait pas bon puisqu'il me ferait du bien ? Et ce qui est bon aussi pour quelqu'un d'autre, pourquoi il ne serait pas juste puisqu'en fait, à ce moment-là, il résonne bien avec cette personne ? Et comme nous avons tous des vibrations particulières et individuelles, mais que parfois, on se ressemble selon les familles d'âmes, etc., que l'on a, automatiquement, ce qui me fait vibrer moi va faire vibrer d'autres personnes. Et du coup, si moi, j'aimais le message que j'ai reçu qui m'a fait du bien, il va automatiquement résonner à ceux qui vibrent comme moi. Mais tant que c'est dans la bienveillance. Et à ce moment-là, pourquoi chercher si c'est vrai ou si c'est faux, tant qu'en fait c'est bon et que c'est fait pour faire évoluer l'autre dans la bienveillance et dans l'amour ?
Ça, c'est un jugement personnel.
Ben oui, mais pourquoi on chercherait à voir le mal dans quel... enfin, ou l'absence de vérité ou... Tu vois, c'est quelque chose mal, hein. Qui fait que... Ouais. Non, mais tu vois, le côté ça n'est pas vraiment réel, c'est peut-être... pourquoi remettre en doute quelque chose qui fait du bien, qui est de bonne foi et surtout de bonne intention ? Si c'est fait pour te faire du bien ou nous faire du bien, pourquoi il faut se dire « Ah, je suis pas bien sûre que ça vienne de là ». En fait, ça vient du cœur, en fait, à la base. C'est ça qui est le principal.
Oui, mais dans ce cas, on peut pas besoin de faire des canalisations. On peut être super sympa avec quelqu'un et lui dire « Ouais, ta journée va être bien ». Je veux dire, ça, c'est pas… Tout le monde peut le faire au quotidien, mettre un peu de lumière dans son entourage.
Mais après, pourquoi ne pas faire de canalisation puisqu'on se fait du bien à en faire aussi ? En fait, partout après, où il y a du bonheur et du bien, pourquoi ne faut pas le faire ?
Parce que des fois, moi, je trouve que ça empêche les gens d'agir. c'était un peu ce que faisait l'équipe de QAnon. C'était, ne vous inquiétez pas, on est là, on s'occupe de tout, restez assis dans votre fauteuil, on vous donne les infos, et il ne se passait rien. Alors après, si c'est des messages qui disent, bah oui, alors aujourd'hui, vous allez essayer d'être plus positif, moi, je suis tout à fait ouvert. Et si c'est juste des messages qui disent, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je suis un peu plus dubitatif. Moi, je suis plutôt dans l'action.
Eh bien oui, mais parce que justement, tu es quelqu'un d'action. Il y a beaucoup de personnes d'action comme toi, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas capables de le faire et qui meurent de peur. Et peut-être que ces messages, ils sont destinés à rassurer ceux qui se sentent incapables d'agir, mais qui ont pour le temps le droit de vivre et de s'apaiser. Et que ces messages de rassurance est là pour leur dire « ça va aller, vous pouvez peut-être pas le faire, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. » Parce que de toute façon, ça va bien se passer. Tu vois ? Et... Oui, pardon.
Non, mais j'ai parlé, je laisse parler.
Oui, Radio Pléiade, je me branche sur la fréquence Radio Pléiade pour vous apporter ce que je ressens en fait sur le champ d'information et l'énergie qui est émise. Et en ce moment, la Terre Maman émet des très hautes fréquences. Et ces fréquences, cette énergie, c'est un champ d'information sur lequel on va pouvoir se brancher et recevoir un message. Et une des clés, en fait, pour percevoir ce message, qui est, à mon avis, absolument fondamentale, c'est notre fréquence du cœur. Là, quand on se met dans le cœur, on va recevoir dans nos cellules si ça nous parle ou pas, si ça nous fait du bien ou pas, si ça nous permet de faire un choix dans telle ou telle autre direction. En tous les cas, en ce moment, c'est vraiment ce que je reçois. Et pour mon seul canal, en fait, c'est mon ressenti, ma perception pour décider de là où je vais et quelle énergie, quelle fréquence je reçois. Et je vais décider par rapport à mon cœur et mes cellules. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines et notamment ces derniers jours là. Donc j'entendais tout à l'heure c'est Sonia qui parlait de ces 7 derniers jours avec ces nouvelles informations sur ton origine hybride. Je pense que ce que émet notre astre matériel, la Terre Maman dans la matière et ses hautes fréquences sont reliées d'une part avec nos vibrations, notre recherche de paix, d'amour, et aussi ce qui se passe à l'extérieur dans l'univers. Et en fait, quand on dit que ce qu'on a à l'intérieur se reflète à l'extérieur, on peut agir à travers notre cœur, dans nos cellules, pour que, pour ma part, en tous les cas, ce que je veux voir se matérialiser à l'extérieur soit en accord fréquentiel avec l'événement, avec ce qui se passe, avec une pensée globale en tous les cas de là où va l'humanité et là de toute façon indéniablement où l'on va. Et je fais rarement confiance en fait à l'extérieur. J'ai souvent voyagé, travaillé seul. Enfin, je suis chercheur, expérienceur et aujourd'hui cette connexion, elle est vraiment liée à la Terre Maman. Et à la compréhension, si je peux parler ainsi, de ce que je ressens vraiment dans mes cellules. Et ces derniers jours, par rapport à l'expérience que j'ai vécue c'est un appel d'âme en fait de mes familles, de ma famille, des défunts, et ont demandé une libération très rapide. Voilà, comme s'ils étaient bloqués dans cette matrice sur une répétition des souffrances et qu'ils avaient demandé par rapport à ce qu'on vibre, hein, à notre intention, parce que l'intention est extrêmement importante. Aujourd'hui, notre intention, c'est quasiment la réalisation et très rapide. Et si on n'est pas centré dans le cœur, ça peut provoquer des perturbations. Et je pense qu'on en constate beaucoup. Voilà, c'était juste mon sentiment par rapport à la discussion de ce soir. Merci à vous.
Merci Nathalie.
Pardon, excuse-moi Nadia, je t'ai coupé, vas-y.
Non, c'est moi, pardon. Je suis complètement d'accord avec Nathalie, d'autant que les collections, je les fais toujours pieds nus au pied d'un arbre avec un cristal dans la main. Et ça fait partie des ressentis physiques qui me permettent d'être sûre et puis d'éjecter une éventuelle ombre quand elle arrive par les pieds dans la terre. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Nathalie aussi sur le fait que moi aussi, et je crois qu'on a été beaucoup, on nous demande en ce moment d'agir, mais vraiment d'agir tous ensemble, personnellement si on ne peut pas se rassembler, mais en tout cas d'émettre des intentions et de plus regarder ce qui ne va pas et ce qui va bien. On n'a plus le temps là. J'ai eu les mêmes demandes. Il faut agir tous les jours. Il faut tous les jours envoyer, presque faire de la magie, quoi. Voilà.
J'ai eu les mêmes informations. J'ai eu les mêmes informations quant aux intentions à envoyer chaque jour. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois que je médite, je visualise la terre que j'envisage avec l'amour dans chaque cœur, avec la libération de chacun, avec toutes ces belles choses qui arrivent, avec l'effondrement de la matrice, en transmutant les égrégores, etc. On me l'a aussi montré qu'il fallait impérativement chaque jour. Alors je vais être honnête, moi, ce qui se passe à l'extérieur, je suis tellement dans l'intention de ce que je veux voir à l'extérieur, se matérialiser à l'extérieur, que j'en oublie très honnêtement ce qui se passe réellement en ce moment. Je ne vis pas avec le Covid, moi, personnellement, il n'existe pas. Sauf quand je vais faire ces fichues courses et que je n'ai pas le choix que de le mettre sur la bouche parce que je ne le mettrai pas sur le nez, c'est hors de question. Mais je le mets malheureusement quand même, sinon je ne peux pas m'acheter ma nourriture. Mais sinon, même dans la rue, je ne le mets pas parce que ça fait pas. Je ne veux pas que ça fasse partie de ma réalité. Ce qui fait qu'à chaque fois que je médite, de toute façon, ou même sans méditer, mes intentions se portent justement sur ce que je veux voir s'accomplir. Et chaque jour, j'ai toujours la pêche, je suis super. Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, je suis en descente émotionnelle. Il y a eu des trucs ce week-end super lourds. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Mais autrement, c'est vrai qu'à part aujourd'hui, en général, ça se passe plutôt bien.
J'aimerais faire apporter une précision aussi sur l'aspect de la pierre de Shintamani que je porte avec moi quasiment depuis 2-3 mois maintenant. Et d'avoir fait ce lien vraiment dans ma pensée que ce que je vivais en ce moment était aussi lié à la puissance énergétique incorruptible, on va dire, de la pierre, qui est aussi que j'ai enfouie également à Belle-Île. Donc de cet aspect en fait de la lumière, des piliers de lumière et de notre intention de travailleurs de lumière, d'être vraiment acteur et puis totalement en lien en fait avec tous ces éléments, comme si ces éléments se conjuguaient par notre cœur, hein, et dans l'intention pour que le nouveau monde en fait arrive vraiment. C'est peut-être ce qu'on ressent. Qu'en pensez-vous?
J'aimerais intervenir si ça ne dérange pas.
Bien sûr.
Voilà, je vois qu'on a parlé de la Shintamani, pierre que je porte depuis de nombreux mois à présent. Ensuite, avec une autre pierre qui est la... Ça y est, j'étais sûre que j'allais oublier. En fait, ce sont deux pierres qui étaient utilisées au temps des Atlantes. Et quand je me les suis appropriées, je ne savais pas du tout. Je l'ai découvert par la suite. Et moi, si j'interviens là, ça me demande beaucoup d'efforts parce que je suis un peu intimidée. Mais c'est pour un témoignage, c'est parce que ça m'est demandé par un être avec qui je suis régulièrement. D'ailleurs, je l'ai eu ce matin même. Et il me demande tout le temps, partage tes expériences. C'est important pour l'avancée de partager vos expériences. Il insiste vraiment. Donc, j'aurais aimé partager cette expérience, comment j'ai connu cet être. Voilà, j'allais en Bretagne. J'y vais régulièrement parce que la Bretagne m'attire vraiment. Et ce jour-là, j'ai dit à mon mari, je sens qu'il va se passer quelque chose ces 3 jours. Et puis, rien de spécial. Et au retour, j'ai été dirigée, je m'y attendais vraiment pas, j'étais à 70 km à peu près. J'ai été dirigée vers un crop circle que je ne savais pas du tout. Hein. J'ai reçu un message, il y a un crop circle tel endroit. Moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas en Angleterre. J'ai dit, s'il est vraiment réellement là, je voudrais bien y aller quand même pour voir ce qui s'y passe, quoi, parce que c'était le début des crop circles en France. Il n'y en avait pas encore beaucoup. C'était vraiment le tout début. Et donc, je suis allée dans le centre de ce crop circle en demandant, sans savoir si j'allais avoir une réponse ou pas, en demandant si c'était un crop réalisé par les humains ou non. Et là, j'ai reçu donc un être qui m'a dit que non, celui-ci était bien réalisé. Il ne m'a pas dit encore ce jour-là qui il était. Je l'ai su quelques mois après. Et il me dit, ce crop circle est fait pour la France. Beaucoup de choses partiront de la France, il insistait bien. Et j'ai eu ce message quelques mois avant les Gilets jaunes. Moi, j'ai eu le message en avril et les Gilets jaunes ont dû commencer septembre, je ne sais plus trop. Et en fait, il me disait, nous ferons de plus en plus de crop circles en France, car ils utilisent toujours un terme un petit peu à l'ancienne, des mots qu'on n'utilise pas, pour vous faire comprendre que vous n'inventez pas, vous recevez vraiment. Et elle me disait, cela fera parler dans vos chaumières. Ils ont toujours des petits mots comme ça. Et donc, il insistait bien que beaucoup de choses partiront de la France et que ce sera très, très important. Et en effet, quelques mois après, donc il y a eu les Gilets jaunes, et par la suite, c'est là qu'il a commencé, en effet, à y avoir de plus en plus de crop circles en France, qu'il n'y avait pas au départ, quoi. Et cet être-là, sans savoir qui il était, je l'ai reçu à nouveau quand il y a eu Notre-Dame de Paris qui a brûlé. La veille que Notre-Dame de Paris brûle, ça faisait 5 ans que je voulais aller à la cathédrale de Nantes. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, il faut absolument qu'on y aille aujourd'hui. Quand je me suis retrouvée dans cette cathédrale, en faisant le tour, je me suis trouvée devant un immense tableau dont c'était un peintre que je connaissais, qui est décédé depuis, un peintre que je connaissais, et donc son nom m'a automatiquement attiré. Je vois ce tableau, et j'étais captivée par ce tableau pendant au moins 15 minutes, et je voulais le prendre en photo, et j'ai dit non, si cela va porter malheur. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, je disais cela va porter malheur. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois? Notre-Dame de Paris en feu, et je vois superposer mon tableau, de Nantes, le tableau de Nantes, car c'était la cathédrale de Nantes en feu, dans les mêmes conditions de feu, quoi. Le tableau s'est superposé. Donc, j'ai compris le message. En fait, on essayait de me faire comprendre la veille qu'en effet, ça arriverait, mais bon, personne ne m'aurait jamais cru. Donc, c'était pas. Et c'est là que j'ai à nouveau cet être. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu la cathédrale en feu, il y a un moment où quand est tombée la. Comment dirais-je? Quand est tombée. La flèche, voilà. Je vois la flèche tomber et qu'est-ce que je vois? Le vaisseau, parce que donc j'ai souvent les vaisseaux de ces êtres-là. Je vois le vaisseau de cet être qui traverse. J'avais même une amie au téléphone pour vous dire que je ne raconte pas des histoires. Je lui dis, mais regarde, et ce vaisseau, comme c'était le feu et que ces vaisseaux sont oranges, il fallait vraiment bien le voir pour le détecter, quoi. Et j'ai dit à mon amie, mais je dis, regarde le vaisseau qui traverse de droite en allant sur la gauche. Et en fait, c'était cet être qui m'a bien dit vraiment que c'était un Arthurien. Je n'en étais pas encore certaine, mais je commençais à me douter que c'était un Arthurien, mais je n'étais pas très sûre. Et ces êtres-là, quand j'ai vu le vaisseau passer, je ne savais pas qu'ils étaient des êtres très christiques. Et en fait, les Arthuriens sont très christiques. Et ils me disaient donc je demandais pourquoi ils étaient présents tout. Et en fait, qu'ils étaient là pour un certain contrôle du feu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les personnes s'en souviennent, la croix d'or n'avait pas brûlé et la couronne d'épines non plus. Et ils étaient là, en fait, en protection, car je ne savais pas qu'ils étaient christiques, ces êtres. Et depuis, j'ai cet être assez régulièrement, et je l'ai eu avant-hier matin. Et ce qui est incroyable, c'est que quand je le recevais en télépathie au début, il fallait un travail, c'est-à-dire que ça faisait comme une conversation télépathique. Mais à présent, c'est même plus la peine, quoi. Avant-hier, j'ai pensé à lui, j'ai dit, tiens, il y a un moment qu'on n'a pas à partager, et hop, il est venu à moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est des êtres vraiment qui, alors on me croit ou pas, hein, c'est ce que je dis, tant pis, je partage mes expériences. Et ce sont vraiment des êtres qui sont là, malgré que, comme tu disais, tu aimes bien avoir des preuves, mais ça, c'est pas toujours facile à montrer, mais ce sont vraiment des êtres qui sont là, les Arthuriens participent vraiment, vraiment. Sans eux, je ne sais pas où on en serait, d'ailleurs. Et d'ailleurs, un autre être qui m'a... Je ne suis pas trop longue, ça va?
Non, c'est bon, Claudie. Dis-moi, tu es une personne qui canalise aussi, je vois. Enfin, finalement, aujourd'hui, ça se tourne pas mal sur la, La canalisation. Oui. C'est ça, tu es une personne qui canalise ?
Bah oui, pas mal. Et puis en plus, au-dessus de chez moi, comme je dis ça en plaisantant parce qu'il faut toujours vivre les choses légèrement. Et je dis en rigolant, je dis en plus, au-dessus de chez moi, c'est vraiment un, comment dirais-je, c'est vraiment un aéroport à vaisseaux. Les vaisseaux, parce que l'été, si tu veux, l'été, je ne supporte pas la canicule. Je dors l'été dehors sous les étoiles. Et si les gens savaient ce qu'ils perdent en dormant sous les étoiles, on vit des moments très, très. Waouh, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai dit, je leur disais, je vous vois toujours que la nuit, très peu, très haut, hein, et peu de temps, quelques secondes. Et un jour, je leur ai dit, j'oublierai jamais, je leur ai dit, j'aimerais bien vous voir le jour quand même, et puis un peu plus longtemps. Et une heure après, j'ai des petits yorks, j'ai des petits chiens yorks, j'ai un de mes petits yorks qui vient au Japon, mais vraiment au Japon, comme c'était la fin du monde. J'ai dit, mais je vais le suivre, qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi mon petit chien, je le vois aller dehors, là où je vois des vaisseaux souvent. Et je le vois regarder le ciel. Et en effet, il y avait un vaisseau. Alors moi qui ne voulais pas quelques secondes, il est resté une heure. Un vaisseau avec des lumières roses et bleues qui tournaient autour. Et il est resté une heure. Une heure vraiment présent là devant moi. Et c'était un moment assez fantastique quand même. Une heure après la demande, hop, ils étaient là.
Tu ne l'as pas filmé? Tu n'as pas de traces?
Si, j'ai une photo. Mais alors, je vais vous faire un peu sourire, c'est que je vis des choses fantastiques, mais alors je suis pas douée du tout sur le net. Ça, c'est un truc. Vraiment, je suis pas douée sur le net. Et alors, parfois, je vais envoyer des photos, mais je ne sais les envoyer que sur Messenger. Alors, je sais même pas encore comment les envoyer. Donc, j'envoie parfois des amis de Messenger qui les envoient ailleurs. Et j'ai une photo, oui, qu'on a un peu agrandie, où on voit bien les petites lumières roses et bleues autour. Et puis, j'avais fait deux petites vidéos aussi. Mais là, on les voit très petits, hein, parce qu'avec mon téléphone, on le voit assez petit. Et puis il y a plein d'autres expériences, mais comme tu dis, quand on aime bien avoir des preuves, je vais dire assez rapidement, je ne vais pas prendre trop la parole quand même, mais j'ai trois êtres qu'on a beaucoup connus sur Terre, que j'ai en télépathie, et comme le premier être que j'ai eu, je ne savais même pas qui il était d'ailleurs à l'époque, j'ai cherché sur le net qui est ce personnage, que tout le monde connaît maintenant, mais moi je ne le connaissais pas, il y a 4-5 ans, je ne le connaissais pas. Et pour me prouver que je ne me trompais pas, il m'a fait vivre un moment incroyable.
C'est Donald Trump ?
Non, c'est Nikola Tesla. Ça a été mon premier. Mais je ne savais même pas qui il était, moi, Nikola Tesla. J'étais vraiment naïve, hein, la première fois que j'ai reçu. J'ai fait des recherches, j'ai dit, ah, quand même. Et comme il voyait que je doutais de moi, ce qu'il a fait le lendemain, il me dit, dès qu'il y aura des éclairs, va dehors. Alors je dis, bon, moi je veux bien, hein, ça ne coûte rien. J'ai dit, peut-être qu'il y aura des éclairs dans 6 mois, dans 8 jours, dans 15 jours, je ne sais pas. Et là, pareil, 30 minutes après, comme je ne ferme pas mes volets, je vois les éclairs. Ah, j'ai dit, alors là, j'y vais. Je vais vraiment y aller tout de suite. Et en effet, je sors dehors, je vois ces éclairs qui n'étaient pas des éclairs naturels. Et il n'y avait pas de coup de tonnerre ou autre, c'était les éclairs seulement. Et là, je reste bouche bée quand même de voir cet éclair pas naturel, quoi. Et puis, 3-4 minutes après, et ces éclairs et tout ça, je les vois au même endroit que j'avais vu le vaisseau. C'est dans le même coin. Et tout d'un coup, je vois à droite de l'éclair un vaisseau. Oh, bonjour, ça. Je m'y attendais pas du tout non plus. Et alors, quand le vaisseau a apparu, l'éclair partait. Et vice versa, ça a duré 6 fois à peu près. Un coup l'éclair, un coup le vaisseau, un coup l'éclair, un coup le vaisseau. Et donc, je lui demande, pourquoi cela, quoi, tout. Et il me dit, déjà, pour que tu vois que tu n'inventes pas, c'est bien moi que tu reçois. Comme ça, en voyant le vaisseau, l'éclair, quand même, je doutais moins, quand même. Et il me dit, donc, et puis pour le vaisseau, il voulait surtout me dire que sans eux, sans ces êtres, il y a longtemps qu'on ne serait plus là, et qu'ils étaient toujours présents pour quand il fallait éteindre les centrales nucléaires, ainsi de suite. Et après, je l'ai eu régulièrement.
D'accord. Voilà. Alors, je voudrais revenir juste un tout petit peu en arrière, parce que moi, j'ai été beaucoup marqué par l'incident de Notre-Dame de Paris. Est-ce que, justement, de par ta connexion, est-ce que tu as eu des informations particulières par rapport à cet incendie de Notre-Dame de Paris? Qu'est-ce qui, ou même tout simplement, quelle est ta compréhension de cet incendie? Qu'est-ce qui en est la cause? Pourquoi ça a été fait? Est-ce que tu as une idée de ça?
Un peu, oui, quand même. Disons qu'il a été brûlé comment dirais-je? Par contre, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, hein. Ça, c'est pas facile pour moi. Il a été brûlé parce qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer, déjà d'une part. Et en plus, comme en dessous, il y avait un temple d'Isis, pendant le feu, il y a eu, si je pouvais vous le montrer, c'est ça, je voudrais prouver ce que j'ai vu, pendant le feu, il y a un endroit, il y a eu comme le visage d'Isis, c'est-à-dire qu'il y avait les flammes et il y avait du bois qui ne brûlait pas à l'endroit des yeux, à l'endroit de la bouche. Et on voyait que c'était la forme d'une femme. Et pour moi, c'était Isis qui se montrait. Et c'est vrai, hein, je vous assure, on voyait vraiment le visage comme j'ai vu le vaisseau. C'était...
Alors, attends, tu dis le feu, parce qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Donc, est-ce que pour toi, ça veut dire que l'incendie de Notre-Dame de Paris a permis de nettoyer des énergies négatives et donc peut-être considéré comme un événement positif, c'est ça?
Oui, pour moi, oui. C'est pour ça que les Arthuriens étaient là. Parce qu'étant christique, il voulait quand même protéger comme cette croix d'or, que personne n'a compris pourquoi elle a brûlé. Elle n'a pas brûlé. Tout le monde disait, mais pourquoi cette croix n'a pas brûlé? Et lui m'a expliqué, donc, il tenait à la protection de cette croix et de la couronne d'épines. Et certains, il ne m'a pas donné tous les détails, hein, c'est certaines autres pièces. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout qu'ils étaient christiques, les Arthuriens.
Alors moi, ça me choque quand même, hein, parce que moi, c'est pas du tout cette conception que j'ai justement par rapport à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Oui, ben oui, pour moi, c'était un acte évident de la Kabbale, justement, parce que à cause de ce symbole très fort, comme tu parlais du temple d'Isis, bien sûr, c'est un symbole très fort. Et justement, le brûler, c'est un holocauste, en fait. C'est un sacrifice par le feu qu'a fait l'ombre, justement, du temple d'Isis.
Alors, mais justement, l'ombre, dans ses actes, l'ombre n'en a pas conscience. Mais dans leurs actes, ils mettent toujours un positif qu'ils ne comprennent pas. Et en fait,
l'ombre est bien en avance sur nous et manipule tout le monde depuis très longtemps quand même. Hein. Ça fait 26 000 ans qu'on se fait enchousser par l'ombre et que là, elle est en train de perdre, elle n'est pas contente. Hein.
Oui, je ne dis pas le contraire, mais bon, moi j'en parle selon ce que je reçois. Et pour le fait, tu disais, c'est dommage, c'est comme si ça avait brûlé le temple d'Isis. Mais ça n'a pas attaqué le temple d'Isis, ça a juste brûlé le superficiel. Enfin, moi, on me croit ou pas, hein, moi, on me demande de témoigner, ces êtres me demandent de témoigner. Moi, maintenant, je parle de mes expériences et je vois, bon, on me croit ou pas, hein, je comprendrais qu'on me croit pas. Hein, mais...
Non, mais merci, Claudie, pour ton opinion. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur cette question, justement, de l'incendie de Notre-Dame de Paris?
Oui, moi, je voulais juste intervenir, juste pour dire, parce que j'étais sur Paris à ce moment-là, et ce dont je me souviens et qui a été vraiment terrible, c'est que les jours après l'incendie, il y avait des énergies épouvantables de profanation et de désespoir sur Paris. Mais quand je dis des énergies maléfiques, mais c'était insoutenable. Vraiment l'horreur, quoi. Comme s'il y avait eu un rituel de magie noire au cœur de Paris. C'était horrible. Donc je m'en souviens et c'était vraiment abominable. Voilà.
Merci Romain. Christelle, vous semblez vouloir prendre la parole ? Christelle, vous avez activé votre micro ?
Ah, bah oui, coucou Hervé.
Coucou.
Bah, écoute un petit peu, je ne connais pas du tout Telegram, donc voilà quoi. Mais il faut savoir aussi que sous Paris, c'est plein de tunnels quoi. Et au niveau des francs, là, j'ai vu il y a quelque temps une vidéo sur deux petits jeunes. Là, j'ai dû le passer sur le groupe sur Facebook de Doc. Et c'est hallucinant, quoi. Les sacrifices qui sont faits sous Paris, quoi.
Ouais.
Et bon, c'est vrai que je pense que Doc va pas me contredire là-dessus, mais Paris est construite sur un point sacré qui était druidique à l'origine, quoi. C'est là que tous les druides se rassemblaient, quoi. Donc, c'est un très haut lieu, machin, quoi. Et après, maintenant, le feu, je pense que c'est comme je rejoins un peu les autres personnes, c'est un moyen de purification, quoi. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait carrément au niveau gouvernement, c'est-à-dire Macron et tout ça, qui aurait organisé l'incendie de Notre-Dame.
Je pense qu'ils ont des sous-fifres, hein. Ils sont cons, mais pas à ce point-là, mais ils ont fait faire ça à des gens qui ont l'habitude de faire des basses œuvres. Après, l'idée, c'était aussi de détruire le vortex. On peut détruire beaucoup de choses par le feu, le vortex de Notre-Dame, donc enlever la féminité une fois de plus. Bon, ça a marché un certain temps, Mais c'est quand même la 10e grande église et cathédrale qui brûlait. Il y en avait une tous les mois, hein, dans cette période juste avant Notre-Dame. qui brûlait tous les mois. Il y avait une grande église ou une petite cathédrale qui brûlait. Donc, il y avait quand même quelque chose qui était en place depuis longtemps. Ce n'était pas caché dans les médias, mais ça ne faisait pas les premiers titres. Hein.
Paris, c'est Isis.
Isis, Paris.
Bah oui, et pourquoi avoir s'être attaqué à Nantes après ? Nantes, c'est le 44. 44, c'est quoi ? C'est le chiffre d'Isis.
Je ne sais pas, je ne suis pas breton.
Donc, tout est relié, quoi.
En tout cas, c'est ce qui est vrai, comme le disait Eric, c'est qu'il y a eu une série, effectivement, d'attaques sur des monuments religieux, enfin, des églises, des chapelles. Il y en a eu, je crois que le temple de Salomon aussi, il y a eu quelque chose qui a été fait à ce moment-là. Donc, par le feu, des attaques par le feu. Donc, moi, je veux bien, le feu purifie. Oui, le feu purifie, mais si je prends mon... Enfin, je vais être intentionnellement cynique, mais moi, si j'ai envie de purifier mes énergies, je vais pas me brûler. Je pense qu'il y a d'autres moyens de nettoyer énergétiquement un lieu que de le passer par la flamme. Je ne peux pas m'empêcher de voir cet incendie comme un holocauste et un acte de l'ombre, mais bon.
Moi, je me permets, si... ce que je ressens, on est dans le ressenti, ce que je ressens, c'est que tout ce qui a eu lieu, justement, c'était, en fait, le côté obscur se rendait compte a compris que l'énergie commençait à évoluer, qu'il commençait à perdre de la force. Donc, tout. Ces feux ont eu pour but de les renforcer un peu comme des magies noires ou des trucs comme ça. Enfin, moi, je connais pas très bien le domaine de l'ombre et franchement, je m'en fous, ça me va très bien. Mais c'est ce que je viens de recevoir, entendre tout ça, c'était vraiment, ça avait pour but de les renforcer parce que justement, la lumière arrivait et était trop gênante pour eux. Donc, en faisant ces espèces de sacrifices, ça renforçait leur puissance. Sauf qu'ils n'ont pas compris que de toute façon, ils ont perdu. Donc, ils essayent de faire durer le truc le plus longtemps possible et ils essayent de se donner par des petits coups des coups ponctuels comme ça, des hausses d'énergie pour eux. Sauf que c'est juste éphémère puisqu'à chaque fois, ça, la lumière reprend le dessus à un moment ou un autre. Quoi.
Et puis, il ne faut pas oublier que la France, c'est le miroir de l'Égypte. La France, c'est la haute Égypte. L'Égypte, c'est la basse Égypte. Il y a un effet miroir. On est vachement relié au niveau de l'histoire de l'Égypte, quoi. L'Égypte sans la France et la France sans l'Égypte, on ne peut pas les séparer, quoi.
Moi, j'aimerais dire.
C'est un truc de fou, quoi.
Oui, vas-y, Nadia.
Pendant que je suis encore là, je voulais savoir si dans ce soir, s'il y a des gens qui ne sont pas de religion catholique ou même qui n'ont pas tellement d'affinité avec cette histoire, ce qu'ils en pensent, comment ils le vivent, comment ils le perçoivent.
Donc tu parles toujours de l'incendie de la cathédrale de Paris, c'est ça ?
Et de toutes les autres lieux, de tous les autres lieux religieux qui ont brûlé, parce qu'il n'y a pas eu que Notre-Dame, hein. Il y en a eu partout en France.
Ouais, ouais, tout à fait.
Bah, par rapport aux bâtisseurs, c'est quand même triste, quoi. Parce que c'est quand même un point de vue, on va dire connaissance de construction, etc. Je crois que même à l'heure actuelle, refaire des telles choses avec nos moyens techniques, je ne suis pas sûre qu'on ferait aussi bien, quoi.
Alors, je reprends du coup la question de Nadia. Effectivement, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout reliées au catholicisme qui auraient une opinion à formuler par rapport à cet incendie ?
De toute façon, ils cherchent de toute façon à détruire les religions monothéistes. Donc, s'ils veulent installer ensuite la religion musulmane, il faut détruire la religion catholique.
On va pas rentrer dans ce débat-là, Christelle, parce que justement, il y a aujourd'hui vraiment une volonté de confronter les communautarismes les uns avec les autres et de créer une guerre civile.
Ça, c'est stratégique, quoi.
C'est pas le moment de rentrer dans ce jeu-là.
Ouais, mais c'est une réalité, quoi, sans être anti-musulman ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité, quoi. C'est une volonté de détruire les religions monothéistes, quoi. Qu'importe qu'elles soient, voilà, quoi.
Je ne suis pas sûr, mais je ne partage pas votre point de vue. Mais en tout cas, la question, ce n'était pas ça. La question, c'était, est-ce qu'une personne, effectivement, qui n'est pas reliée au catholicisme, aurait une opinion, hein, si je ne déforme pas ta question, Nadia, aurait une opinion à formuler par rapport à l'interprétation de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Parce qu'effectivement, je pense que l'idée de Nadia, c'est qu'à partir du moment où on est relié d'une façon ou d'une autre au catholicisme, on a un biais d'interprétation. Enfin, je pense que c'était ça, l'idée de ta question.
Allô, oui. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Si vous voulez, je pense que je peux vous exposer mon point de vue là-dessus. Je dois coller pas mal.
Vas-y, je t'en prie, et présente-toi en quelques mots peut-être.
Eh bien, enchanté. Alors bon, moi je suis artisan dans la vie, donc niveau discussion, niveau du... C'est dommage pour les bâtisseurs, je rejoins bien ça. Techniquement, oui, effectivement, c'est impossible hein, de reproduire des pyramides à l'heure actuelle. Hein. Je crois qu'ils ont essayé il y a 20 piges, hein, grosso modo. Ils ont monté un truc d'1,80 m de haut qui s'est cassé la gueule et ils ont bossé quand même moult semaines. Donc bon, là-dessus, ça, c'est une grande question. Pour le point de vue, comment on perçoit ça en tant que détaché du catholicisme et toute religion papier, si je puis dire. De mon point de vue, alors attention, hein, je veux froisser personne. L'Église, à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'elle soit gouvernée par des gens vraiment bienveillants. Tous les croyants, bien sûr, qui se déplacent le dimanche à l'église sont bienveillants. Mais en haut, ça ne l'est pas. Je vais prendre un exemple très simple. Si demain j'ai des garde-corps en or, des rambardes d'escalier en or, je ne vais pas me permettre de tendre mon porte-monnaie à mon voisin qui a le frigo vide. Donc, c'est des choses qui sont un peu contradictoires. Faut pas oublier le Macron, quand il est arrivé au pouvoir, rappelez-vous de où il a fait sa cérémonie. On est vraiment dans le symbolique énorme. Je pense qu'ils n'hésiteraient pas à foutre le feu à leur baraque eux-mêmes. J'ai écouté les points de vue de tout le monde sur l'incendie de Notre-Dame. Je pense que selon le point de vue de chacun, ça, tout peut se tenir. Je pense que moi, ça part d'un souhait malveillant, hein, bien entendu. Que ça ait du bon au final, c'est possible. Moi, ma mère m'a toujours dit un mal pour un bien. C'est des choses qui se sont souvent vérifiées. Il y a énormément de gens qui s'ouvrent l'esprit, qui comprennent même pas pourquoi à l'heure actuelle, qui sont un peu paumés. Tout ça, c'est encourageant. Si je peux dire quelque chose, ceux qui sont un peu en train de flancher, garder le moral, ça change très très vite, même en tout bord, hein, des gens qui sont plus dans l'économie, même des entrepreneurs à petit niveau, tout change. Moi, ça fait 10 ans que je me suis installé, hein, juste dans l'espoir de m'occuper de moi, et ça a pas mal fonctionné. Mais honnêtement, depuis 1 an, tout est cassé. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a l'impression vraiment que d'en haut, on coupe un peu les approvisionnements, mais à des niveaux qui normalement étaient intouchables et qui auraient dû tout gérer. Et j'en reviens un peu à l'incendie de la cathédrale. Je pense que c'est des choses qui sont provoquées par des mauvaises personnes, mais qui, au final, dans la précipitation, peuvent tourner à l'avantage de tous ceux qui le méritent. Voilà.
Alors de quelle façon ça pourrait tourner bien? Enfin, voilà. Quel est le bien à retirer de ce mal, d'après
ton... Le bien à retirer de ce mal, on va dire, bon, la cathédrale a tenu, déjà. Alors certes, il faut lui refaire un sacré chapeau. Ils avaient parlé, on va dire, les puissants de la finance, et comme dit Macron, hein, là on voit bien qu'il est en train de déstructurer complètement l'image de la France, hein, que ce soit au niveau préfectoral, étatique, enfin voilà, ils avaient parlé de mettre une verrière sur le toit de la cathédrale pendant un moment. C'était quand même hallucinant. Le patrimoine, nos valeurs françaises ont réussi à prendre le dessus. Et c'est une reproduction à l'identique. Alors, au grand drame des forêts, parce que là, ce qui est en train de se passer, et c'est énorme, vous regardez un peu les journaux, vous allez voir, il y a des vols de bois, il y a des gens qui se font raser des forêts de chênes entiers, des particuliers qui avaient une forêt que leur grand-père avait plantée, ils se réveillent le matin, boum. Et tout ça, ils le disent, on va prendre des bûcherons sous-traitants d'autres pays, comme ça, bon bah voilà, on ne sait pas qui c'est le coupable finalement, et on met tout ça sur le dos de, je vais prendre un exemple, à tort de bûcherons roumains, polonais, qui viendraient en gros nous piquer notre bois, mais c'est encore trop gros pour être vrai. Je suis sûr que ce bois-là, en tant que menuisier, il y en a une grosse partie qui va se retrouver sur la charpente de Notre-Dame. Donc, c'est toujours... c'est pas les bons qui vont gérer la reconstruction de la cathédrale. Enfin, vous voyez, tant qu'il y aura un chef à la tête des chrétiens, alors là, j'entends par là le pape, hein, qui n'est pas capable de radier un prêtre qui touche à un enfant, de le radier complètement. Hein, voilà, on reste humain, je dis pas de le jeter au milieu de la Méditerranée, mais voilà, qu'il n'exerce plus, qu'il ne prenne plus la parole pour Dieu, ce serait quand même la moindre des choses. Et tant que ça, ce sera pas une évidence, c'est ce qui me, voilà, c'est d'où mon ressenti de me dire que tous les chefs, les grands chefs de religion actuels, et j'irai même loin, hein, jusqu'au Dalai Lama, si on regarde le Dalai Lama qui arrive quand même très très bien à contenir ses troupes, entre guillemets, même lui, il est pas tout blanc. Malheureusement, même une religion qui, entre guillemets, n'a jamais fait de vague, si un jour il décide de la manipuler dans un autre sens, je suis pas sûr qu'ils aient le bon chef. Donc voilà. Après, ça c'est des choses, je pense, qu'on n'aurait même pas pu exprimer il y a ne serait-ce que 10 ans, sans passer pour des fissurés du bocal. Tout change très très vite, et on dit plus c'est gros, plus ça passe, mais jusqu'à un certain point, quoi. Et là, je pense que le certain point n'est plus très loin. Et on va dire faut toujours garder espoir. Et honnêtement, moi, de mon point de vue, qui suis quand même quelqu'un d'ultra pessimiste, mais pas dans le but de miner le moral, mais dans le but d'anticiper un maximum, ce dernier mois est encourageant. Faut bien sûr pas se noyer sous l'information, mais faut pas non plus s'asphyxier complètement par manque d'infos. Et trouver le juste milieu, à l'heure actuelle, c'est pas une mince affaire.
Ok, voilà, très bien.
Donc je veux pas trop non plus m'étaler, parce que c'est vrai qu'on peut très très vite déborder, parce que malheureusement il y a tellement de choses à dire, mais voilà, faut...
Bah c'est un peu l'inconvénient de cette formule là qu'on a proposée, justement. C'est comme il n'y a pas de thème prédéterminé, c'est les auditeurs qui font le thème. Forcément, on est amené à dériver un petit peu. Donc voilà, vous voyez, on est parti des hybrides reptiliens. On a parlé des canalisations. On a basculé sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est la formule qui veut ça. Alors moi, ce que je voudrais peut-être avant de terminer l'enregistrement, enfin je pense qu'on peut le laisser tourner encore une petite demi-heure, c'est changer un petit peu de thème, et pour changer un petit peu d'énergie. Alors mais tout en restant peut-être encore un petit peu dans le thème, on parle beaucoup de canalisation, parce que, enfin bon, pour des raisons diverses et variées, mais on parle aussi beaucoup de méditation. Mais en réalité, est-ce que canalisation et méditation, il n'y a pas une confusion justement parfois entre canalisation et méditation? Je voudrais vous lancer sur ce thème-là, donc pour quitter la cathédrale Notre-Dame de Paris et peut-être pour essayer justement d'apporter quelque chose de nouveau, ouais. Sachant que sur les canalisations, enfin vous connaissez sans doute ma position et la position d'autres co-administrateurs. Nous, on considère que la canalisation… Enfin, de quoi on parle? Parce que moi, je peux dire aussi que je canalise la lumière, mais ce n'est pas vraiment une canalisation. Donc, il faut préciser de quoi on parle quand on parle de canalisation et quand on parle de méditation. Oui, Eric, vas-y.
Oui, moi, je voulais juste faire un petit retour sur la cathédrale. Bon, moi, je suis du bâtiment.
Bon, on n'arrive pas à la quitter, cette cathédrale.
Oui, enfin, je travaille du bâtiment. Je suis du bâtiment, ça peut vouloir dire autre chose. Toutes les cathédrales gothiques, le vrai gothique qui a été fait pendant 30 ans en France, ont été faites dans des endroits particuliers. Et si sur une carte, on relie tous les points des cathédrales gothiques, on obtient quelque chose qui est intéressant, c'est la constellation de la Vierge. Et toutes ces constructions étaient faites sur des points énergétiques extrêmement puissants. Mais la constellation de la Vierge, elle existe bien avant. Bien avant qu'il y ait eu ces constructions. Donc, qui de la poule a pondu l'œuf là-dessus? J'ai pas trouvé de question. Mais faites l'exercice, hein, vous regardez vous prenez Chartres, Paris, Saint-Lon, vous faites comme à l'école des traits de crayon sur une carte ou sur un Google Map et vous aurez la constellation de la Vierge, ou vous tapez ça dans Google tout simplement. Il y a plein de gens qui ont fait des jolis dessins, vous n'aurez pas à le faire. Et je parle du vrai gothique, hein, celui qui a été construit par des hommes et des femmes.
Il y a beaucoup de cathédrales quand même gothiques. Des étoiles dans la constellation de la Vierge, il y en a beaucoup moins que de cathédrales gothiques en France quand même.
Non, c'est vraiment impressionnant. Il y a Amiens, donc Chartres, de mémoire.
N'hésite pas à nous mettre le lien dans le groupe Telegram, du coup.
Je vais mettre un lien. C'était un ingénieur qui avait trouvé ça, qui avait écrit sur Chartres, Charpentier, il s'appelait d'ailleurs, ça ne s'invente pas. Hein. Je vais mettre un lien. Bon, voilà, c'était juste pour un… Et je dis bien que ça a été construit par des hommes et des femmes et que ça n'a rien à voir avec l'Église catholique puisque ça a été construit avec l'argent du temple, le fameux trésor du temple que tout le monde a cherché. Donc ça a été de l'argent qui était fait pour les populations puisque ce n'était pas des lieux de culte à l'origine, c'était des hospices, des endroits où on soignait. Et toutes ces cathédrales sont légèrement en pente. Il y a des grilles, ça pouvait être lavé au grand jour. Et les gens venaient pour se faire soigner avec leurs animaux. Et c'était ouvert à tous avant que l'Église mette la main dessus. Voilà. Bon, petite parenthèse, désolé, grande parenthèse. Voilà, donc, et c'était un endroit où, en effet, on pouvait méditer.
Alors, oui, bah justement. Moi, j'aimerais rappeler Romain, là, sur le. Si tu veux bien. Je voulais reparler un petit peu des méditations versus canalisation parce que je pense que il y a une confusion là-dessus parce qu'en réalité lorsqu'on médite on canalise on cherche pas forcément à canaliser quelqu'un en particulier, on est plutôt sur canaliser une énergie et Romain, tu es toujours avec nous ou tu nous as quittés?
Non, je suis bien là, j'entends bien. Non,
Est-ce que tu pourrais nous partager justement, enfin ton, comment dire, ton, oui, ton ressenti, ton expérience par rapport à ça, la différence entre canalisation et méditation?
Méditer, c'est se mettre dans un état particulier qui peut être propice peut-être à recevoir des messages, mais effectivement, on ne cherche pas à rentrer ou en contact ou à recevoir des messages en tout cas. Moi, je sais que j'ai jamais canalisé quoi que ce soit. J'ai pu être en contact effectivement avec des êtres de lumière, mais ce n'était pas de la canalisation. C'est complexe, c'est assez subtil comme différence, mais effectivement.
Et toi, Nadia, alors justement, puisque tu nous parlais de canalisation, comment tu définirais l'un et l'autre et comment distinguer l'un et l'autre?
Alors, pour moi, les canalisations. Suivant qui c'est, mais en général ça arrive comme ça, c'est un peu comme un coup de fil, on n'a rien demandé, on n'est pas en état méditatif et tout d'un coup il y a quelqu'un qui nous parle, ou une impression ou une sensation. Pour moi, une canalisation, c'est plutôt ça. Quand je me mets en position méditative, ça peut être une canalisation parce que c'est moi qui passe le coup de fil, mais ça peut aussi être un accès à la bibliothèque universelle qui, à mon sens, habite chacune de nos cellules dans l'ADN de nos cellules. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais en message tout à l'heure que pour moi, c'est la même chose. Si on accède à la bibliothèque universelle, ou d'autres appellent l'Akasha, par ce biais-là, que ce soit par la méditation parce qu'on l'a appelé ou parce qu'on l'a reçu, pour moi, c'est pour rejoindre aussi Sonia tout à l'heure, comment on va dire, le résultat va être, à partir du moment où le résultat vise la bienveillance, ben, ça va être identique. Donc, pour moi, ça n'a pas trop d'importance, sauf quand on se fait parasiter. Et là, évidemment, si, pour ceux qui ne sont pas capables de se protéger ou de refuser les intrusions, les canalisations peuvent être très dangereuses. Voilà.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait s'exprimer justement sur canalisation versus méditation ?
Il y a peut-être une erreur de langage, mais parce que quand Cobra fait faire des méditations, en réalité, c'est des gens qui vont se mettre en état de méditation, mais qui vont émettre aussi donc un égrégore. Un égrégore, évidemment, qui est pas parasitable, parce que dans l'idée, tout le monde envoie de la lumière et de l'amour, ce qui intéresse pas du tout l'ombre, ce qui fait fuir l'ombre. Il y a peut-être un problème sémantique, justement, au niveau du mot méditation. C'est-à-dire qu'on se met dans un état, mais nous, quand on fait les médites, les médites de Cobra, on émet aussi quand on est dans cet état méditatif. Donc, il y a une petite précision qui manquerait, je pense.
C'est Laïla qui voulait intervenir. Je n'ai pas saisi au vol.
Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai connu réellement la méditation à travers Cobra. C'est à partir de là que j'ai commencé à méditer. Mais ce sont des méditations guidées. D'accord ? Oui. Depuis 2015, je médite, je suis les vidéos guidées. Et mon souhait le plus cher, c'est d'arriver à... Comment dirais-je ? Vous voyez, quand on parle, oui, il y a un vaisseau de lumière qui descend de votre corona.
Là-haut. C'est une colonne de lumière, c'est la colonne de lumière.
Une colonne de lumière et qui traverse votre corps jusqu'au fond de la planète Terre, et ainsi de suite. Mon souhait le plus cher, c'est de voir cette colonne de lumière. Et jusqu'à aujourd'hui, après 5 ou 6 ans de méditation, je n'arrive pas à percevoir cette colonne de lumière.
Mais elle n'est pas sur le plan physique, cette colonne de lumière. Elle est, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie
divine. C'est de l'énergie. Mais au moins pendant cette méditation, il faut au moins voir quelque chose, comme les personnes qui parlent. Qui disent, ils voient, et moi je ne vois pas, et mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir arriver. Comment faire ?
Si je peux me permettre.
Oui,
s'il vous plaît. On a tous, moi ce que je vois au niveau des élèves et puis de tous les âges, hein, on a tous au moins 3 façons différentes d'aborder les informations, soit qu'on soit audio, on préfère entendre les choses, soit qu'on soit visuel, on préfère les voir, soit qu'on soit sensitif et on préfère les ressentir dans son corps, on peut, ou dans ses sensations de chaleur, de bonheur, de tout ça. Donc, moi, j'ai arrêté de vouloir faire voir des choses à des audios, à des auditifs, ou de faire entendre des choses à des visuels. En fait, c'est très bien, Leïla, c'est très bien. C'est pas grave de ne pas le voir. À partir du moment où l'effet arrive dans le corps, qu'il soit en sensation ou en son, pourquoi pas une.
Et ben, ça suffit. Je confirme au niveau de la sensation. Ça, je ne peux, je le nie pas. Je sens une énergie qui traverse tout le corps.
Vous voyez? Voilà.
Voilà. Mais au moins, je me dis pourquoi est-ce que je ne visualise pas quelque chose en plus.
Eh ben, y en a qui voient et qui ne ressentent pas. Et en fait, on a chacun des outils différents. C'est bien. Au moins, on est tous différents. C'est génial. On est complémentaires. Mais peut-être qu'un jour, vous finirez par voir.
Oui. Je prierai pour ça. Je prierai pour ça.
Mais je confirme ce que tu dis, Nadia. En fait, on a tous un sens dominant. En fait, ça peut être, oui, ça peut être la vision, ça peut être l'auditif, ça peut être le toucher, le kinesthésique. Et les premières sensations qu'on va avoir lorsqu'on se réveille en fait au monde subtil, les premières sensations qu'on va avoir en général sont liées avec ce sens dominant. Et mais je pense que là et là, oui, un jour tu verras cette lumière. Lorsque justement toute cette crasse qui a été mise dans la matrice, cette boue dans laquelle on vit en permanence sera enlevée, lorsqu'on n'aura plus tous ces démons qui nous tournent autour et qui essayent de nous faire trébucher en permanence et de nous boucher l'accès à la lumière, moi je pense qu'effectivement on pourra tous voir, entendre et sentir le subtil, voir, entendre, sentir le subtil et qu'on pourra, voilà, on sortira de ce sens dominant, celui par lequel on avait démarré. Allô?
Oui, on redeviendra comme dans le film Lucie de Luc Besson.
Voilà.
On sera complètement connecté à nos 12 brins d'ADN et puis voilà. Mais du coup, après, on s'ennuiera, on n'aura plus rien à faire.
Oui, alors c'est ce que disent certains. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu auras plus l'ombre, on risque de s'ennuyer. Le monde risque d'être fade et triste avec que des gens gentils qui font que le bien autour d'eux.
Il y aura plein de choses à découvrir et de nouvelles capacités à utiliser qu'on ne s'ennuiera pas, croyez-moi.
C'était pour ajouter un peu de légèreté.
Oui.
Oui, alors moi j'ai lu que effectivement il y a la lumière et l'ombre, mais quand même l'ombre est nécessaire pour faire la différence entre le vrai et le faux, n'est-ce pas?
Alors moi personnellement, ça je pense que c'est un enseignement New Age. Alors enseignement New Age, comprendre, il faut comprendre un enseignement distordu qui nous fait donner en fait du consentement à une part d'ombre. En réalité, l'ombre ne s'oppose pas à c'est pas la bonne opposition, l'ombre et la lumière. La bonne opposition, c'est la matérialité et la spiritualité. Et la matérialité est le revers de la spiritualité. L'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, en fait, c'est justement des groupes d'entités qui ont fait le choix de faire l'expérience justement du négatif et ont mis en place un système de souffrance et un système d'esclavage. Donc, en fait, un parasitisme pyramidal qui fait que ceux qui sont en haut de la pyramide parasitent tous ceux qui sont en bas et chaque étage parasite l'étage du dessous. Donc, on est dans le service à soi, dans le parasitisme, contrairement au service aux autres. C'est ça qu'on appelle l'ombre. Mais si pour vous, l'ombre, c'est la matérialité, alors oui, pourquoi pas, si c'est votre définition, là, je suis d'accord. Mais il faut comprendre que l'ombre et cette souffrance et ces mondes, en esclavage qui ont été développés, en fait, c'est le résultat d'une contingence, d'un hasard entre guillemets. Donc voilà, ces entités qui ont beaucoup évolué pendant les premiers temps de l'univers et qui ont fait le choix de la négativité. Mais ce n'est pas lié à la matérialité à proprement parler. L'ombre n'a pas forcément besoin de matérialité pour s'exprimer. Alors elle s'exprime plus facilement dans la matérialité puisqu'elle va avoir la capacité de couper les êtres qu'elle a mis en esclavage, de les couper de leur spiritualité. C'est beaucoup plus simple de mettre en esclavage des gens qui sont incarnés dans la matérialité. Mais on pourrait très bien imaginer un monde matériel dans lequel, en fait, il n'y a pas de souffrance, dans lequel il n'y a pas d'esclavage, ce système pyramidal, justement, d'esclavage, de service, service à soi versus service des autres. Donc voilà, donc opposer l'ombre et la lumière, c'est une, pour moi, c'est une fausse opposition. C'est un concept New Age pour nous laisser entendre que l'ombre est nécessaire, justement, pour nous faire évoluer, pour nous faire prendre conscience, etc., etc. Donc désolé pour mon petit speech, mais c'est vrai que je m'indigne assez régulièrement contre ça. C'est vraiment la matérialité versus spiritualité et l'ombre est véritablement le résultat de la contingence. Et aujourd'hui, l'univers, je dis bien l'univers, est bloqué dans son développement spirituel à cause d'une anomalie cosmique qui s'appelle la Terre. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de résoudre.
Si je puis m'exprimer.
On est là pour ça.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi quand on estime que l'ombre est... quand on parle d'intention d'ombre, c'est-à-dire d'intention d'être destructeur. Mais j'ai eu une énorme vision et j'en ai fait un livre. Et puis ensuite, une deuxième vision où on m'a montré la nécessité de l'ombre au niveau matériel. C'est-à-dire, je voyais des corps qui avaient ce qui est juste au-dessus, le corps, le corps éthérique, mais le flot vital, on me l'a montré comme étant le flot vital. Donc, tout ce qui vit a son flot vital, son énergie éthérique. Et lorsque l'ombre est là pour... C'est pas du noir. La lumière est comme une matière, elle est lumineuse, mais l'ombre, c'est une abstraction dans la matière. Hein. Et en fait, dans ce sens-là, l'ombre peut avoir son utilité parce qu'elle elle nettoie, elle détruit, mais pour nettoyer comme on fait.
Oula. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ça, faut expliquer ça aux enfants violés, aux gens torturés. Non, ça va loin quand même. Hein.
Moi, je voudrais te demander quelle est ta définition de l'ombre, Nadia.
Alors,
d'abord.
Voilà, justement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ombre prise comme une intention malveillante, évidemment qu'elle est à éliminer. Mais quand je parle de l'ombre, dans ma vision, voilà, je termine ma vision. Donc, il y avait tout ce qui vit à son flot vital. Et lorsque l'ombre agit, ce qu'on m'a montré, c'était comme des aiguilles, des aiguilles de la taille d'un cheveu qui soit immobilisaient les cellules, soit les perçaient, les détruisaient. Mais il y a des moments où, de la même manière, on casse un œuf pour faire une omelette, de la même manière, on détruit notre corps filtre une partie de ce qu'on mange pour en faire des déchets, mais que la terre réutilise, si on parle de fumier, pour en faire des légumes. C'est de ça que je parle, cette ombre-là, c'est-à-dire l'ombre qui est nécessaire à la matière. Et ma deuxième vision, c'était, on m'a montré le yin et le yang, ils étaient devenus, c'était plus en 2D, c'était en 3D, comme un sablier, un 8 en forme de sablier. Et il y avait le côté blanc et le côté noir qui symbolisaient l'ombre et la lumière. Et en ce moment, l'ombre était en excès et la lumière avait presque disparu. C'était l'image qu'on montrait. Et il suffisait que... Mais comme c'était un sablier, on ne pouvait pas avoir ou tout blanc ou tout noir. Il fallait qu'il en reste un petit peu. Et à partir du moment où il y en a un qui se vide, il faut qu'il en reste un petit peu de l'autre côté. Mais il faut qu'à un moment, l'équilibre se rétablisse. Et alors, on m'a montré qu'entre les deux sabliers, donc les deux polarités nécessaires, il y a une troisième dimension qui relie le tout par l'amour, mais de l'amour dans le sens, la colle qui réunifie le neutron positif, je dis des bêtises, hein, mais avec le négatif, enfin voilà, mais dans ce sens-là, dans le sens matériel de la chose. mais évidemment pas dans le sens des intentions, parce que là, je vais complètement dans le sens de d'aider. Je fais partie des femmes, je crois, une sur cinq femmes ou même hommes hein, qui a été abusée dans sa vie, et je partage complètement le fait que non, on ne peut pas du tout dire que c'est bien, même si je me suis construite par-dessus avec ça, mais je ne peux pas du tout dire que c'est nécessaire. Voilà.
Je peux parler ?
Allez-y.
Vas-y, Florence.
Bonsoir tout le monde. Je voulais juste dire que je pense qu'on pense beaucoup dualité, en fait, ombre, lumière, mal, bien, et que c'est encore très matrice. Et justement, si on veut se sortir de là, il faut penser hors dualité et penser que la lumière, elle englobe tout ça, comme vient de dire Socha, et que c'est vraiment, enfin, c'est envoyer de la lumière pour regrouper le tout, quoi, en fait.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, penser hors dualité ? Est-ce que tu peux... Alors, tu dis envoyer de la lumière, ça, d'accord. Mais c'est ce qu'on fait justement quand on fait des méditations, qu'on se connecte. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, penser hors dualité ?
Ben, en fait, on est toujours en train de penser, est-ce que celui-là, il est bien ? Est-ce que celui-là, il est mal ? Et en fait, il ne faudrait pas penser comme ça. Enfin, je pense, pour sortir justement de cette matrice qui veut absolument nous rester là-dedans et du coup nous enfermer, il faudrait, enfin je pense, et il faudrait englober tout dans la lumière. Ça veut dire pour moi déjà pardonner, parce qu'en fait on est au-dessus de tout ça. On a peut-être besoin de ce mal et ce bien parce qu'on est dans la matière et qu'il faut créer, mais en fait on le regarde peut-être d'une mauvaise façon. Et bon, c'est un peu dur à définir, mais je pense que les deux sont nécessaires, mais que si on les réconcilie, on peut arriver à dépasser tout ça et justement à sortir de la matrice.
Alors attends, s'ils sont nécessaires et qu'il faut sortir de tout ça, ça veut dire qu'après on n'en aura plus besoin.
Je pense que ceux qui sont en dehors de la matrice, ça les touche même plus, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas embêtés, eux, en fait, par le mal que nous, on le conçoit.
Oui, alors pour ma part, moi je dirais que l'ombre ne me fait pas peur. C'est uniquement, ça fait partie du processus.
De quel processus vous parlez ?
Le bien, le mal, le sombre, machin. Tout simplement. C'est clair.
C'est clair pour vous, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, en fait, vous êtes de ceux qui pensaient que finalement, l'ombre, alors encore faudrait-il effectivement donner votre définition de l'ombre, l'ombre est forcément nécessaire.
Oui, non, justement, elle... En fait, on n'en a pas besoin. C'est juste... alors après, je ne sais pas pourquoi on a décidé de venir sur Terre. Chacun a certainement ses raisons. Ou si on a été emprisonné. Mais il faut justement sortir de cette dualité pour ne plus être dans ce qu'on vit actuellement négatif.
Ok, Laïla, peut-être, oui, je vous laisse vous réexprimer.
Non. Oui, je suis en train de réfléchir pour donner mon explication, mais je suis en train de me concentrer.
Dolorette souhaitait peut-être aussi intervenir, non, j'ai rêvé.
Oui, bonjour Hermé. Je voulais juste donner, moi, mon point de vue, qui est beaucoup plus prosaïque et qui va être en dehors de tout ça, c'est-à-dire l'ombre. On la définit souvent, qu'elle est multidimensionnelle, etc. Oui, elle l'est, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'êtres. Et ils ont beaucoup de possibilités d'intervention, hein, comme vous auriez une nation avec tous les métiers. Mais pour moi, c'est une... c'est avant tout des envahisseurs, car je ne sais pas de quel monde ils viennent. Là, c'est une chose que je ne peux pas expliquer, mais il faut reprendre l'histoire avec les Lyriens qui ont été envahis et qui ont eu une destruction totale et définitive. Puis ensuite, ils ont été obligés de se délocaliser et ensuite, ils sont venus ici, ce qui a fait qu'on a le terrien. Enfin, nous avons de l'ADN hein, mélangé, nous avons beaucoup d'ADN de beaucoup de races. Il y a une multiplicité, on est une vraie bibliothèque, quelque part. Et reprendre notre liberté, c'est chasser l'envahisseur. Définitivement, de ce système solaire. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Les êtres de lumière, ce sont des êtres qui respectent la vie. Si on doit définir la lumière, c'est des êtres qui font passer l'information, car l'ombre bloque toute information, c'est-à-dire possibilité de connaissance et d'évolution d'un être. Il bloque son évolution pour l'avoir toujours en contrôle. Donc ça, c'est force. On peut dire l'ombre, les forces négatives, etc. Peu importe, ça, c'est de la sémantique. Mais on comprend bien que de toute façon, c'est quelque chose qui s'oppose à la vie. Donc, ces races-là veulent un empire. Et d'un autre côté, vous avez la lumière qui est un empire, elle aussi. Et c'est un jeu entre les deux. Donc, évidemment, il vaut mieux que maintenant, nous ayons de plus en plus d'expansion de la lumière. C'est ce que, apparemment, la nature, ce que j'attends, la nature, c'est-à-dire l'univers, tend à être. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous avons toujours ces contrôleurs qui ont pris une planète comme ils prennent d'autres planètes. Il y en a des centaines. Hein. Ça fait partie du jeu. Et on les voit dans les films de science-fiction, où on voit des empires qui se battent l'un contre l'autre. Donc, dans la lumière, vous allez avoir des races, d'ailleurs, qui ne nous ressemblent absolument pas et qui peut-être même nous, au niveau physique, au niveau de leur apparence physique, nous feraient peur. Et pourtant, ils appartiennent à la lumière. Ils se sont fédérés. Ils ont été obligés de se fédérer parce que face à un envahisseur, vous êtes obligés d'être nombreux. C'est une histoire aussi de rapport de force. Et puis en même temps, dans l'histoire, il s'est fait, je suppose, une agglomération de forces négatives dans des égrégores qui deviennent, comme certains pléiadiens, des taguiétains expliquent, du black goo. Des blagues, hein, c'est très spécial, mais ça c'est vraiment une matière noire, très négative.
C'est ce qu'on rappelle l'anomalie plasmique, non ? C'est ça ?
Voilà, c'est ça. On peut l'appeler blagues, on peut l'appeler anomalie plasmique, tout à fait. Après, c'est une question de mots, et ça, c'est évidemment, c'est une espèce de quelque chose qui se cristallise, etc., et qui endommage quand on est près les corps éthériques et en même temps, vous avez des êtres multidimensionnels, et je pense que même ces êtres-là, pour certains, hein, dans certaines races, ils peuvent changer de fréquence, enfin, passer d'un plan à un autre, peut-être grâce à une technologie, peut-être grâce à des choses que nous ne connaissons pas, parce que je pense qu'il nous manque toute cette connaissance. En vérité, nos anciens, c'est-à-dire nos ancêtres, qui étaient en Égypte, qui étaient chez les Mayas, connaissaient ces choses, parce qu'ils les avaient devant eux. En fait, ce qu'on appelle les dieux faisaient partie de la vie, et puis à un moment donné, il y a eu des guerres, et tout le monde s'est retiré. Et en fait, l'homme qui a été retransformé, reconfiguré avec un ADN défiguré, puisqu'il était supérieur, mais les races qui ont pris le pouvoir ont décidé de l'amenuiser de manière à mieux le contrôler. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est tout la difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on reprenne, c'est ça l'évolution spirituelle, c'est ça l'ascension, c'est reprendre en fait l'homme originel que nous étions. C'est comme ça que moi, je le comprends. Hein. Je peux me tromper, c'est juste mon point de vue. Mais en tous les cas, moi, j'entends le mal par l'envahisseur qui a pris cette planète, entre autres, et qui ne veut pas lâcher cette planète. Ou qui la lâchera, mais en pensant, si je pars, c'est la politique de la terre brûlée.
Alors, si on écoute le contact Ecobra, éteignez votre micro hein, si vous ne parlez pas. La planète Terre est le dernier bastion des forces sombres. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de l'invasion des archontes de 1996. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant 1996 ? Avant 1996, il y avait le système Rigel. Donc, c'est dans la constellation d'Orion. Il y a une étoile qui s'appelle Rigel, qui était un autre bastion des forces sombres. Et en réalité, donc, si on croit ce que dit Cobra, en 1995, les forces de la lumière, en fait, étaient dans une position favorable pour réaliser un premier contact avec la population de surface de la planète Terre. Et en fait, les forces sombres ont pris peur. Et donc, à l'époque, elles avaient deux bastions. Elles avaient la Terre et elles avaient encore le système Rigel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont décidé d'abandonner le système Rigel. Et toutes les entités négatives qui restaient, justement, donc les archontes et puis tout ce qui peut y aller avec, les trillions d'entités négatives, ont pris le trou de ver qui va bien pour venir se réfugier dans le dernier bastion qui était la Terre. Donc, manque de bol, si on avait été des otages sur le système de Rigel, on serait déjà libérés au jour d'aujourd'hui. Mais parce que, justement, les forces sombres ont décidé de rassembler toutes leurs forces sur la Terre pour pouvoir justement tenir cette dernière position. Donc ça, c'est juste par rapport à ce que tu disais, Dolores. Bon, moi, j'ai pas de preuves, évidemment, de ce que j'avance. Hein. C'est les informations qui viennent du contact Ecobra. Mais d'après lui, la dernière planète occupée par ces envahisseurs, comme tu les appelles, ces forces sombres, c'est bien la planète Terre.
Alors, je te remercie, Hervé. Bah, de toute façon, on se rejoint, c'est le même. Cobra, là, il le sait parce que Cobra est quand même quelqu'un qui a une connaissance et des informations de première main. Sur le domaine, je crois que c'est l'un des plus pointus avec d'autres lanceurs d'alerte. Et je pense que ce qu'il dit est absolument exact et c'est bien ce qu'on ressent. La planète Terre est encore avec toutes ces entités, il faut les enlever. C'est pas notre ressort, évidemment. C'est du ressort de ces races qui ont les moyens technologiques de le faire.
Oui, moi, j'avais lu aussi, par rapport à Cobra, en 1996, les forces de l'ombre ont occupé le Congo, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ils sont venus du système Rigel par le. En fait, ils ont créé quelque chose de très négatif avec les massacres qu'il y a eu justement au Rwanda à cette époque, qui leur a permis de probablement d'attacher leur trou de ver par ce vortex du Congo pour pouvoir justement réaliser l'invasion du vortex du Congo, enfin voilà, venir se réfugier sur Terre par ce point d'ancrage d'une grande noirceur. Donc, et tout ça, c'était suite effectivement au massacre qu'il y a eu au Rwanda. Voilà. Ils ont pu imprimer une grande noirceur, ce qui leur a permis de venir s'ancrer et tous de venir se réfugier sur la planète Terre. Mais oui, c'est tout à fait lié au vortex du Congo.
Justement, pour en revenir aux méditations, parce que j'ai plusieurs fois eu à combattre, entre guillemets, des forces du mal qui s'étaient emparées de quelqu'un. À chaque fois que j'ai voulu utiliser leurs armes, c'est-à-dire les chasser, comme tu disais, Dolores, ou comme souvent il est écrit, où il nous est demandé de le faire, on n'y arrive pas, on n'a pas ces armes-là. On ne peut pas se battre contre Roger Federer si on n'a jamais fait de tennis. Et bien là, c'est pareil. Et vraiment, notre seule arme, c'est la lumière. Et donc, la meilleure arme de la lumière, évidemment, c'est le pardon, c'est l'amour, etc. Mais il y a aussi l'indifférence. Et il n'y a pas plus fort, si jamais on n'a pas la force de pardonner ou d'aimer, que de juste être indifférent, de ne pas se laisser envahir par les forces du mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que ça me fait un peu peur quand je vous entends les uns les autres. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais ça me fait de la peine, quoi. Ça me fait mal de voir encore cette douleur qui vous fait avancer. Et il faudrait qu'on arrive à avancer juste avec la joie, la foi, mais surtout pas la envie de vengeance ou de douleur, de vouloir tout casser pour y arriver. Voilà, c'est juste ce que j'avais envie de dire.
Mais ce sont les sombres qui veulent tout casser, justement. C'est ça le problème. Et lorsque tu es né, ils t'ont fait signer des contrats absolument abominables qui t'ont limité énormément. Non, moi, ça me choque. Enfin, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ça me choque. Et là, justement, si on se sent aussi compressé à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont en train de perdre et qui veulent, en fait, nous faire sombrer avec eux. Donc, non, c'est très grave.
Non, mais j'ai jamais dit que c'était pas grave. Mais le fait de vouloir se battre, quelque part, c'est les servir. Parce que vouloir se battre suppose une espèce de colère, une espèce d'envie de vengeance, une espèce d'agacement qui ne représente pas ce qu'est la lumière réellement. Et c'est en ça que je dis que ça m'ennuie, ça me fait de la peine de voir avancer les troupes de la lumière mues par des sentiments qui appartiennent à l'ombre. La colère, c'est de l'ombre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Mais qui dit que les forces de la lumière viennent avec des sentiments d'ombre? Ils font leur boulot, hein, comme un soldat de lumière. Bah, y a un problème, bah, on enlève le problème. Il n'y a pas de méchanceté, si pour protéger les autres et pour ceux qui veulent, laisser la lumière revenir, on ne va pas être des victimes consentantes toute notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec de la haine, ça je suis d'accord. On peut agir de plein de manières, on peut agir. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, comme ce qui était dit tout à l'heure, qui n'ont pas envie d'agir, qui préfèrent écouter des beaux messages. Moi, je suis plutôt ceux qui agissent. Et sans haine, mais fermement. Voilà, 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 voilà. Pour rejoindre un peu Romain, qui n'a pas l'air de vouloir se laisser faire non plus.
Oui, je suis bien d'accord avec toi, parce que je pense en fait, on peut être dans la lumière, mais on peut faire la lumière, mais en même temps, si on se bat contre l'ombre, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans des vibrations négatives. Ça ne veut pas dire qu'on le fait par vengeance, on le fait justement parce qu'on veut récupérer cette planète Terre qui retombe finalement dans l'escarcelle de la source. C'est ça en fait véritablement dont on parle.
Moi si je vois une manière...
L'ombre a été cruelle avec nous. Enfin, je sais pas, moi en fait, bon, mon histoire est un peu particulière, ça fait seulement 27 ans que je suis sur cette planète et effectivement, je suis effarée en fait d'entendre certains discours, combien même je les respecte, hein. Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais effectivement, je n'en reviens pas, quoi. C'est-à-dire qu'on veut presque, en fait, vous faire accepter que l'ombre, bah, c'est normal, ça fait partie du deal, il faut consentir, on s'y fait, ça fait partie de la création, etc. Mais attends, tu dirais ça à un Pléiadien ou un Galactique, mais ils bondiraient au plafond. Ils bondiraient, parce qu'eux, ils savent ce que l'ombre a pu faire sur des otages, etc., sur les rituels sataniques, sur la pédocriminalité. C'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est une abomination et toutes les âmes qui sont sur les plans subtils et qui attendent de se faire réincarner parce qu'elles sont bloquées, elles ne peuvent pas s'en sortir de cette prise d'otage, mais c'est immonde. Je sais pas, là, je comprends pas la vie de certaines personnes, mais on a le droit de ne pas être d'accord.
Alors, non, alors, je vais me réexpliquer. Je vais me réexpliquer. Et je suis la première à me battre contre moi-même, contre mes penchants depuis toute petite. Qui serait facilement de détruire, facilement de faire du mal, facilement de médire, etc. Et c'est ce que si je pouvais, par mon expérience, vous apporter cette sérénité que j'ai réussi à obtenir, non pas en arrêtant de me battre, attention, j'ai 80 élèves et leurs parents, et c'est un combat que je mène tous les jours, mais dont j'ai ce combat n'est plus mu par ni la vengeance, ni la colère, et ni la haine, parce que ça m'empoisonnait la vie et ça m'empêchait de bien me battre. Mais bien entendu que je me bats tous les jours comme vous. Ceci dit, je ne permets plus jamais à l'ombre de m'atteindre. Et pourtant, tous les jours, comme peut-être comme vous, je lis, je vais sur VK, je vais sur Telegram, je vais écouter tout ce qui se passe. Je ne me prive de rien, mais j'essaye à chaque fois, et ce n'est pas facile du tout, mais j'essaye à chaque fois de ne pas me laisser emporter par le désespoir de l'horreur. Voilà.
Moi, je me laissais emporter par mon envie d'être libre et de ne plus avoir d'implant, de ne plus avoir aucune forme de limitation, parce que j'ai connu la liberté il y a 27 ans et je veux la retrouver. Voilà.
Tu veux dire, Romain, que tu ressens que tu es une âme fraîchement arrivée sur Terre, justement, pour travailler?
Ah oui, moi, c'est tout neuf, absolument. Oui. Je suis programmée, mais effectivement, je suis un primo arrivant, quoi, absolument.
J'aimerais vous apporter une information qui vient des aînés autochtones amérindiens, algonquins, qui parlent de la prophétie des sept feux. Est-ce que quelqu'un d'entre vous en a déjà entendu parler ?
Je ne pense pas. Vas-y, Nathalie, n'hésite pas.
Alors, je vais venir apporter une information à Romain, justement, puisque je vais juste vous parler du septième feu. Ces enseignements sont détenus par les aînés. Ils se la transmettent à travers le symbole d'une ceinture qu'on appelle la ceinture Wampum, et qui raconte l'histoire en fait de ces personnes qui sont venues apporter cette prophétie il y a déjà plusieurs siècles au peuple amérindien d'Amérique du Nord. De dire que des personnes à la peau blanche viendraient sur leur territoire pour leur apporter de la lumière, et en fait, en fonction des choix qui ont été faits ou imposés, ils ont vécu des périodes très sombres. Donc, il y a eu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième feu. Il y a eu la colonisation. Il y a eu le fait qu'on enlève les enfants à leurs parents, qu'on les mette dans des pensionnats, qui subissent les pires atrocités. Donc, je parle des abus et puis de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, donc ce septième feu, on parle de... Un jour, je vais vous lire en fait la première phrase. Un jour, la race à la peau blanche devra choisir entre deux chemins. Si elle s'engage dans le bon chemin, alors le septième feu allumera le huitième et dernier feu, un feu éternel de paix, d'amour et de fraternité. Et pour résumer, et pour parler aussi à Romain, sommes-nous les nouvelles personnes du septième feu ? Les nouvelles personnes qui se sont incarnées sur Terre et qui sont là pour faire un choix. Donc, tout dépend de notre choix ici et maintenant, d'après ces aînés autochtones qui travaillent en ce moment, justement, à retransmettre les enseignements et à permettre à chacun, ceux qui se sentent appelés, comme pour nous les méditations, en fait, à faire un choix personnel et savoir où l'on va, puisque cette pandémie qui a bouleversé tous les êtres de la planète, sans exception, est un fait absolument majeur quant à la destinée en fait de l'humanité. Et voilà ce qu'apportent les aînés autochtones et les enseignants.
Oui, ça, je suis bien d'accord. Effectivement, je pense qu'on est dans une période où il faut faire des choix, il faut savoir aussi un peu à quel camp on appartient. Est-ce qu'on s'éveille, est-ce qu'on décide d'agir, est-ce qu'on décide d'aller vers l'avant. C'est une période propice à ça.
Selon ses aînés, si l'humanité ne fait pas le bon choix, c'est la perte en fait de l'humanité.
Je le pense aussi. Enfin, c'est un moment vraiment très particulier. C'est très important ce qu'on vit.
Eh ben, merci beaucoup Nathalie pour cette prophétie. Donc on est là. Moi, ce que je comprends, donc, c'est qu'on est là pour allumer ce huitième feu qui sera éternel. C'est bien ça. J'ai bien compris.
C'est ça.
Et je trouve, comme justement cette soirée a été un petit peu sous la thématique du feu pour différentes raisons. Pour ceux qui l'auront écouté ou qui l'auront suivi dans cette intégralité, dans son intégralité, moi je vous propose en fait que ce soit tout simplement le mot de la fin pour la partie enregistrée de cette soirée Radio Pléiade. Et je vous invite en fait à nous rejoindre donc tous les lundis. Hein, vous le savez, vous l'avez compris. On se retrouve tous les lundis, on met le feu, on met le feu à Radio Pléiade à partir de 21h. C'est vous qui faites le programme. A priori, on n'a pas de programme prédéterminé. Je poste l'enregistrement dans les groupes Telegram, et je le poste également sur la chaîne Hervé Gaïa sur YouTube, donc sous la forme d'une vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup à tous pour vos interventions. C'était encore très, très intéressant, avec une énergie qui n'a rien à voir avec l'énergie de la semaine dernière, mais quoi qu'il en soit, des échanges très, très intéressants. Et nous ne fermons pas le salon vocal, hein, c'est juste l'enregistrement qui s'arrête. Pour ceux qui souhaitent continuer à discuter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps.
Restez avec nous pour la fleur.
Pour l'after, voilà, pour ceux qui veulent rester pour l'after. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle prophétie. Merci pour tous ces échanges. Merci, Nadia. Merci, Romain. Merci, Dolores. Excusez-moi, je me souviens plus de tous les noms qui sont intervenus. Eric, Christelle, Galashka, bref. Et Laila. Et on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine à 21h. Et je stoppe l'enregistrement.
Merci. Merci Hervé. Et bonne soirée.
Merci.
Merci Hervé.
Merci Hervé.
Merci à tous.
Merci.